Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Et c'est parti à 17h03 sur Sud Radio, les vraies voix de l'actualité, des débats durant 2 heures. Et les vraies voix aujourd'hui, jour de l'Ascension, jour férié, fidèle au poste. Voilà, pas de jour férié pour nous. Avec Xavier de Namur qui est avec nous, restaurateur. Pas de jour férié. Bah dans les restaurants, il n'y a pas de jour férié,
non,
hein, Xavier,
non,
en général.
On travaille tout le temps. Bien qu'on paye les jours fériés aux salariés,
ah, ça,
même quand ils ne bossent pas.
Ah bon, ah
oui,
bon.
Quand ils sont au chômage, je rappelle quand même que Mme Borne, nous, elle nous a laissé, elle a dit, elle n'a pas voulu savoir, pendant, ils ont à peu près eu 10 jours fériés garantis pendant des périodes de chômage, comme ils ont le droit à 2 jours et demi.
Donc c'était payé. Bon, bah,
ça
très
fait
bien.
27 jours et demi par an en plus quand tu ne bosses pas.
Bon, bah, elle est gentille, cette ministre. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut La Parole, magistrat honoraire. Bonsoir Philippe.
Bonsoir,
bonsoir
Philippe. Je note avec plaisir que Xavier est resté modeste malgré l'excellent reportage
qui
lui a été consacré dans un journal.
Alors où? Parce qu'il y a eu beaucoup de reportages beaucoup de portraits de reportages sur Xavier de Namur. Ah oui, c'est
crois que c'est dans le Parisien.
C'est dans le Parisien, voilà. Oui, tout à fait, c'est dans le Parisien. C'est dans le Parisien. Stella Kamga est avec nous, étudiante et blogueuse. Elle est avec nous. Bonsoir Stella.
Coucou, bonsoir.
Bonsoir.
Salut,
pas d'article dans le Parisien, Stella. Pas d'article dans
pas
la
cette
presse.
Semaine.
Ah, pas cette semaine. Non, mais ça va venir, ma chère Stella, avec les années, ça va venir. Bon, comment allez-vous? Vous avez vu, nous sommes en plein cœur d'un très très long week-end.
C'est le week-end. Oui.
Un week-end de 4 jours, donc, comme beaucoup de Français. Tiens, est-ce que vous allez partir, mon cher Xavier? Vous êtes dans le sud, entre Paris et le sud.
Moi, je fais 15 jours. Alors, je ne suis pas en week-end quand je suis dans le sud. J'ai mon fils en garde alternée et je bosse grave. Parce que quand tu gères 5 entreprises, même pendant la période Covid, tu as bossé comme un malade.
Donc là, vous allez travailler ces 3 prochains jours.
Ah, mais pas, ça fait plus d'un moment qu'on travaille.
Oui.
Pour préparer des restaurants, ça se fait pas.
C'est vrai que Xavier de Namur, c'est un bosseur. C'est vrai que c'est un bosseur. Tiens, Philippe Bilger, vous avez prévu de partir comme beaucoup de Français. Beaucoup de billets réservés à la SNCF.
Pas du tout, Philippe. Non, je vais rester là jusqu'à dimanche sans problème.
Très bien, vous restez au calme.
Mais ça n'interdit pas d'avoir des moments agréable,
ah
bien bah,
j'imagine
sûr.
Bien, j'imagine bien.
Voilà.
Tiens, Stella, Legend, Stella, vous avez prévu de partir, de vous enfuir un petit
Non, j'ai rien prévu de partir, mais comme je déménage bientôt, je suis en train de faire mes cartons.
Oui, elle va en Vendée, Stella Kamga. Bon, bah, je vous trouve bien sage, hein, parce que beaucoup de Français, alors là, ça a été la cohue des milliers de billets réservés à la SNCF, même s'il ne fait pas très beau et que le temps est couvert, on attend de la pluie, comme nous l'a dit Rémi André. Et bah, avec le confinement, les Français n'en pouvaient plus, ils ont décidé de profiter de ce week-end de 4 jours pour partir. Voilà, si vous nous écoutez, si vous êtes en vacances, écoutez, reposez-vous bien pendant ces 3 prochains jours. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour la prochaine étape du déconfinement avec l'ouverture des terrasses, évidemment. On va en reparler. Les débats des vraies voix dans quelques minutes. Notre premier débat, la voiture interdite dans le centre de Paris d'ici 2022. Et oui, d'ici là, plus de voitures. Et non! Plus de voitures, mais des piétons et des vélos. Voilà, souvent citant d'exemple, la ville de Montpellier, par exemple, en est à 22 km de longueur d'air piétonne. Marseille s'est fixé un objectif, hein, 0 voiture en centre-ville d'ici 10 ans. Alors pour les riverains, évidemment, c'est plutôt bien. Pour les travailleurs et les petits commerces, ça deviendra compliqué, on va en reparler. Faut-il donc piétonniser les centres-villes? Voilà, qu'en pensez-vous? Vous votez sur Twitter et YouTube, 0826-300-300. J'attends vos réactions et vos témoignages. Voilà, si vous êtes dans une grande ville en centre-ville et que c'est devenu impossible pour vous de prendre la voiture, 0826-300-300. Et puis, à 18h30, ce sera le grand débat des vraies voix, l'escalade et peut-être une guerre totale entre Israël et le Hamas. Des manifestations sont prévues un peu partout en France, demain, samedi et dimanche. Manifestation en soutien aux Palestiniens. Alors, à Paris, hein, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'interdire la manifestation. Ouais. Beaucoup craignent des tensions, des appels à la violence contre la communauté juive ont été relayés sur les réseaux sociaux. Faut-il craindre une importation du conflit en France? Là encore, vous votez, vous nous appelez 0826-300-300. Et puis, le député MoDem du Val-d'Oise sera avec nous, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles. Et il avait vécu des tensions et des violences en 2014 lors du précédent conflit. Il viendra nous raconter 0826-300-300 pour poser vos questions à François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles. Voici tout de suite le tour de table de l'actualité.
Mais on est chez les fous, là.
J'ai une intelligence et un physique très moyen.
Ah bon?
À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère.
Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue?
Le tour de table
de l'actualité.
En terrasse même en...
On se vendra du rêve.
Et oui, en terrasse, voilà, J-6 pour l'ouverture des terrasses dans toute la France. Et Xavier Denamur, restaurateur, en profite qu'il soit là pour lui poser quelques questions. Xavier, voilà, qui a beaucoup, beaucoup de restaurants. Comment vous préparez cette journée du mercredi? Et d'ailleurs, on sera dans un des restaurants de Xavier Denamur, Lèverez-vous en direct, mercredi en direct de la terrasse de Xavier Denamur. Tiens, comment vous préparez à l'ouverture des terrasses mercredi? Beaucoup de boulot, Xavier, comment ça se passe?
Alors, forcément, c'est du boulot. Alors, moi, j'ai une équipe, on a 55 salariés qui vont se remettre au turbin, c'est le cas de le dire. Donc, ils n'ont pas bossé depuis 6 mois et demi pour la plupart. J'en ai que 3 qui étaient en activité. Donc là, on remet tout le monde à fond. Alors, naturellement, j'ai déjà commencé à passer des commandes, etc. Parce que ça n'arrive pas comme ça. J'ai commencé aussi à faire venir tous les prestataires, frigoristes, cuisinistes,
oui,
etc.
Oui, pour lancer la machine. Hein.
Il faut tout vérifier, tout nettoyer. Donc là, il va y avoir une vingtaine de personnes, 25 personnes qui vont nettoyer, parce que j'en ouvre que 2 sur 5. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, ceux qui ont des très très grandes terrasses, avec des demi-jauges, à la rigueur, ça va pas hyper rentable, mais ça peut le faire. Sauf bien que on peut trouver aussi des endroits qui n'ont que de la terrasse. Moi, je vois, j'étais dans des coins comme Montalivet-les-Bains, etc., sur le Verdon, enfin tout ce qui est la côte ouest. Il y a des endroits, ils ont quasiment jamais personne dedans. Tout se passe dehors, donc pour eux, ça posera pas de problème. Après, à Paris, on a des endroits tout petits. Moi, j'ai par exemple un de mes affaires, le petit fer à cheval. J'ai 4 ou 5 tables en terrasse.
Donc, ça vaut pas le coup de l'ouvrir.
Effectivement, ça vaudrait pas beaucoup d'ouvrir, surtout quand il y avait la demi-jauge. Alors, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si Philippe a entendu.
Oui. Alors, pour les petites terrasses, il n'y a plus de jauge. Hein. C'est alors, ce qu'on a entendu, hein, Philippe, voilà. Bilger.
Oui,
hein.
Oui, absolument.
Voilà, le gouvernement a eu du bon sens. Hein,
alors, du bon sens.
Il changera pas d'avis, j'espère.
Alors, le bon sens.
On sait jamais, on sait jamais.
Ce qui est assez drôle, c'est que c'est monsieur Griset, qui est le ministre de l'Artisanat, qui a dit, effectivement, qu'on pouvait, effectivement, ne plus avoir de jauge, à condition d'avoir des plexis ou des plantes.
Alors, moi, je me suis dit, pourquoi des plantes?
Ouais, parce que moi, j'ai mis aujourd'hui un Covidus, c'est une plante spéciale entre les gens. Ouais. Alors, moi, je trouve que, alors, cette histoire de demi-jauge et tout, c'est un peu abracadabrantesque, c'est-à-dire qu'on prend rien. C'est-à-dire que le plus simple eût été de dire, on garde 1 mètre entre les tables, on laisse pas plus que 6 personnes à table, on garde le protocole qu'on avait avant. Je sais pas, tout d'un coup, ils nous sortent un truc comme ça, où tout d'un coup, 3 jours avant, faut acheter des séparateurs en plexiglas, ou mettre des plantes. Alors, je veux bien, mais en terrasse, quand on travaille sur des toutes petites terrasses qui font 4 mètres de large, t'as 4 tables,
c'est
tu commences à déplacer des plantes, des plexis et tout. Si jamais
Vous vous préparez, quoi. Voilà, on sent que du côté des restaurateurs, hein, Philippe Bilger, il y a une certaine effervescence quand même. Philippe, alors vous serez avec nous évidemment mercredi prochain en direct. Hein. Ce sera votre première terrasse.
C'est un grand.
Le mercredi prochain.
C'est un grand bonheur, l'idée de me retrouver mercredi chez Xavier. J'ai déjà eu la chance, comme consommateur, d'en bénéficier. Là, ce sera en qualité de chroniqueur.
Et voilà, exactement. Mais vous serez aussi
Que j'ai pas été invité.
Vous serez aussi consommateur. Bah, écoutez, Stella,
aucune inquiétude, Philippe, en ce qui concerne Xavier. Nous avons déjà su goûter à Sud Radio des mets excellents, alors chez lui, ça va être encore plus formidable.
Ouais, je pense aussi. Tiens, Stella Kamga, est-ce que vous avez réservé votre petite terrasse pour mercredi? Vous avez réservé un restaurant, par exemple, mercredi soir? Vous allez attendre le jeudi? Comment ça se passe?
Ben non,
beaucoup réserve, hein, je vous le dis, il y a beaucoup de réservations.
Je pensais que vous alliez m'inviter et qu'on allait sortir ensemble, là, mais je vois que vous faites des programmes dans mon dos, franchement...
Mais vous avez une vie à part les vrais voix quand même, Stella. Ouais. Non mais, alors, est-ce que vos salariés sont motivés? Parce qu'après 6-7 mois à rester chez soi, est-ce qu'ils ont retrouvé la motivation? C'est compliqué quand même.
J'en ai certains qui seront pas là parce que ça arrive, ils sont tombés malades, etc. Ça arrivait la dernière fois, ça peut arriver. Mais je le saurai réellement que lundi, parce qu'on ouvre 2 jours avant, etc. pour se préparer et tout. Non, par contre, ce qui est important de dire, vous êtes tout à l'heure, tout le monde disait qu'on va réserver en terrasse. On va réserver, ça va être compliqué parce que les restaurateurs, alors ceux qui font 1 ou 2 services le midi, puis 1 ou 2 services encore le soir, on pourra pas parce que on a le couvre-feu à 21h. Moi, ce que je préconise aux clients et aux restaurateurs, c'est d'ouvrir pendant cette période du 19 mai au 9 juin, d'ouvrir en continu. C'est-à-dire, on ouvre à midi, on ferme à 20h, 21h. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais et que tous les clients vivent un peu à l'espagnol. On vit dehors, comme en Espagne, tout le monde dit toujours, ouais, c'est génial, les Ramblas, on va à Barcelone. Bon, là, c'est les Ramblas nationales en France, et on va tous sur les terrasses, et on mange à toutes les heures. On fait en sorte d'avoir nos équipes qui travaillent en continu, et on est tout le temps, toute la journée.
Alors, Philippe Bilger, Stella et Xavier, évidemment, le pass sanitaire a été adopté à l'Assemblée nationale pour voyager, pour les grands événements, les festivals par exemple, pour l'instant, hein, mais on a bien compris que, et j'espère que ça va durer, pas question de pass sanitaire pour aller dans les restaurants, mais ce sera plutôt pour aller voilà, dans les lieux culturels par exemple. Et alors figurez-vous, tiens, Philippe Bilger, on en parlait la dernière fois avec vous, eh bien que Roselyne Bachelot a un peu retourné sa veste. Alors complètement changé d'avis. Souvenez-vous de ce que disait la ministre de la Culture sur le pass sanitaire il y a quelques semaines.
Moi, conditionner l'ouverture d'un lieu de culture, l'entrée dans un lieu de culture à un passeport sanitaire, j'avoue que j'ai beaucoup de mal.
Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce pass sanitaire, mais ça, c'était avant. Et oui, puisqu'écoutez ce que la ministre de la Culture a dit ce matin concernant le pass sanitaire, elle y est maintenant plutôt assez favorable. Écoutez.
Il faut le voir aussi comme une procédure qui nous permet de raccourcir la progressivité de l'ouverture complète et permettre aussi d'élargir les jauges, et en particulier pour les spectacles debout.
Alors, Philippe Bilger, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On lui a recommandé.
Vous avez raison, oui. Philippe. Alors, on peut hésiter entre intelligence et versatilité. En ce qui me concerne, je dirais plutôt que c'est le signe de son intelligence. Il n'est pas honteux de changer d'avis au regard de données, de paramètres qui ont peut-être évolué. Donc, je n'irai pas lui jeter la pierre, même culturelle, mon cher.
D'accord. Donc, elle n'a Philippe. Pas retourné sa veste, on ne lui a pas dit dans les médias de vanter le pass sanitaire. Non.
Et qui serais-je, Philippe, pour jeter la pierre en tant que profane à quelqu'un qui a en charge un domaine extrêmement préoccupant et qui tente de faire le moins mal possible?
Alors, Stella Kamga, qu'est-ce que vous pensez de ce revirement?
Non, je pense pas qu'il y ait eu un revirement. Elle a été assez humble pour dire qu'il ne lui apparaissait pas, il ne lui semblait pas. Donc, ce n'était pas catégorique ou définitif sa première position. Ouais. Donc, du coup, maintenant, je vais qualifier ça de doute. C'est-à-dire que si on lui avait demandé son avis à ce moment donné-là, oui, bien évidemment, elle n'allait pas être favorable. Mais quand on voit effectivement comment la situation du Covid évolue, les vaccination, il n'est pas anodin que finalement elle décide de se dire que pourquoi pas, peut-être que c'est la solution la mieux
c'est
adaptée.
C'est du bon sens en fait, c'est du bon
exactement.
Sens.
Exactement, donc je ne dirais pas qu'il y a eu revirement, elle a juste simplement, elle est revenue, elle a changé d'avis.
Ouais, elle a changé d'avis tout simplement. Tiens, Xavier Denamur, alors on nous a assuré qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire pour les restaurants, c'est inscrit dans la loi en tout cas apparemment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on risquerait peut-être d'y venir en cas de quatrième vague, par exemple, et pour que les restaurants restent ouverts, est-ce qu'on risquerait pas de dire « Ok, vous restez ouverts, mais à condition d'accepter les clients avec un pass sanitaire ». Est-ce que vous pensez qu'on risquerait d'y venir en cas de nouvelle vague, par exemple?
Alors, déjà, je ne crois pas trop qu'il y aura... Si les gens sont vaccinés, on a vu ce qui s'est passé.
Il
n'y
aura pas de nouvelle vague.
Je crois qu'il y a eu 3 vagues, c'est bon, ça suffit. On ne dit jamais 203, mais 4, ça me paraît bizarre. Non, je pense que pour les restaurants et les lieux, les petits lieux, ça serait très compliqué à mettre en place. On comprend que quand on va en concert, il y a un service de sécurité, il y a toutes sortes de sas, de passes, etc. Donc, ça, comme dirait l'autre, ça passe. Ouais. Mais je pense pas qu'on y viendra dans les restaurants. Ça serait déjà, quand on a vu avec tous leurs petits bons là, qu'il fallait remplir par les clients et tout, déjà.
Ah oui, adresse mail, numéro de portable, et tout.
Moi, j'ai eu des cartons entiers que j'ai mis à la poubelle, bien sûr, parce qu'on ne devait pas les garder. Bon, et j'ai jamais vu l'ARS, personne nous appeler en disant il y a eu des cas et tout. Donc, moi, pour la restauration, j'y crois pas trop. Je pense que le mieux, moi, c'est ce que j'ai incité tous les employeurs, que ce soit dans mon secteur ou d'autres, c'est d'inciter leurs salariés à la vaccination. Parce que je rappelle quand même, avec toutes ces polémiques, on entend des gens qui sont un peu anti-vaccins et tout. Moi, j'ai de la famille qui habite en Angleterre. Ils étaient à 1 500-2 000 morts par jour cet hiver. Aujourd'hui, hier ou avant-hier, j'ai vu, il y a eu 0 mort du Covid. Ouais. Donc, faut juste se poser la question, qu'est-ce qui est le plus dangereux?
C'est vrai, vous avez raison. Bon, en tout cas, Xavier Denamur, vous restez avec nous et je rappelle qu'on sera en direct d'un de vos restaurants, de vos établissements à Paris, en direct de votre terrasse mercredi prochain, voilà, avec les vraies voix, Philippe Bilger et Stella Kamga qui restent également avec nous. Et vous restez avec nous dans un instant, le premier débat des vraies voix. Le centre-ville de Paris interdite aux voitures en 2022. Et mais pas que Paris, évidemment, plusieurs autres villes prennent cette direction. Par exemple, Montpellier a cette ambition, encore Marseille. Objectif, zéro voiture dans les centres-villes d'ici quelques années à Marseille. Est-ce qu'il faut piétonniser les centres-villes? Qu'en pensez-vous? Venez en discuter avec nous, 0826 300 300. Et vous votez évidemment sur Twitter et YouTube. On se retrouve dans quelques minutes maintenant. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Stella Kamga, Xavier de Namur. Dans quelques instants, le premier débat des vraies voix. Tiens, faut-il piétonniser les centres-villes? 0826 300 300, le centre-ville de Paris sera bientôt piétonnisé en 2022. Marseille, eh bien, s'est donné cet objectif d'ici quelques années. Montpellier, d'autres villes encore, 0826 300 300. Mais pour l'heure, on poursuit avec Philippe Bilger, avec vous justement, le tour de table de l'actualité. Qu'a dit encore l'acteur Mathieu Kassovitz, mon cher Philippe?
Alors, Philippe, vous savez que je ne dédaigne pas en général les provocateurs, ouais, les libres, mais et il m'est arrivé assez souvent d'apprécier les outrances de Mathieu Kassovitz, parce que dans un monde un peu frileux, parfois il remuait les esprits et agitait les pensées. Mais j'ai été surpris de l'entendre non seulement défendre ceux qui attaquaient les policiers dans les banlieues, ça n'est que trop classique. Mais pour la première fois, me semble-t-il, quelqu'un qui a une certaine aura et peut-être une influence sur certains a presque légitimé ce qu'il appelle le caillassage contre les pompiers. Jusqu'à nouvel ordre, à mon sens, c'est la première fois que quelqu'un semblait justifier par une sorte de frustration les attaques contre les pompiers, qui demeuraient jusqu'à aujourd'hui une corporation totalement respectée de la part par les Français. Et donc, franchement, là, je considère que Mathieu Kassovitz sort de la provocation intelligente, sort de l'agitation positive pour tomber dans une sorte de, comment dirais-je, de paradoxe un peu choquant, voire indécent.
Ouais. Comment il les justifiait d'ailleurs, Philippe, si vous en souvenez, ces agressions?
J'ai simplement lu, Philippe, ses déclarations. Il parle d'une sorte de frustration, ouais. Je ne vois pas laquelle peut exister qui justifierait les attaques et les caillassages contre les pompiers quand ils interviennent pour le bien de tous dans les cités.
Voilà. C'est vrai que Mathieu Kassovitz, bon, parfois il a un brin révolutionnaire, complotiste, non, quand même pas, mais parfois ça peut arriver
un
aussi.
Petit peu,
ouais, un petit peu,
un
quand
petit
même.
Peu.
Tiens,
ouais,
Stella Kamga, Mathieu Kassovitz, j'imagine que vous suivez ses déclarations, il fait partie, selon vous, de ces... Voilà, révolutionnaires, complotistes, provocateurs qui vont parfois trop loin.
Révolutionnaire, je ne dirais pas ça. Ouais. Complotiste, je ne maîtrise pas trop les tenants et les aboutissants de ce terme. Par contre, aller trop, oui, il va vraiment beaucoup trop loin. Quand il va quand même jusqu'à légitimer, j'ai envie de dire, c'est limite s'il ne donnait pas son aval, en fait, par rapport à l'assassinat d'Éric Masson, le policier qui est décédé quand il a été interviewé l'autre jour sur le plateau. Et personnellement, effectivement, ça m'a choqué. Et oui, il y avait un collègue d'Éric Masson sur le plateau qui lui a rappelé qu'aucune violence n'était acceptable, qu'on vit quand même dans un état de droit et qu'il y a la loi qui est là pour recadrer les comportements des uns et des autres.
Ouais.
Je suis toujours choquée, j'ai envie de dire, quand il y a des personnes comme ça, des individus comme ça, qu'on invite justement sur les plateaux et qui réussissent à dire devant les caméras, devant le monde entier, parce qu'il y a des gens qui les écoutent quand même, qu'il faut légitimer la violence, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire que même si on a des griefs, même si on n'apprécie pas X ou Y personnes, même si on n'est pas en phase avec les idées, ce n'est pas pour autant qu'il faut être d'accord que la personne soit victime d'agression, de violence, encore plus loin d'assassinat. C'est énorme, je veux dire. Personne ne fait ça. C'est quand même aberrant.
Philippe Bilger, est-ce que vous mettriez Mathieu Kassovitz dans la même case que Francis Lalanne, par exemple? Alors lui qui parle de dictature
non,
en ce qui concerne la France. Hein.
Parce que j'ai tendance, mais c'est un point de vue strictement personnel, à considérer que Francis Lalanne, c'est une sorte de trublion farfelu et qui est moins, d'une certaine manière, moins nuisible que la pensée discutable parfois d'un Mathieu Kassovitz, parce qu'on peut tout dire de lui sauf qu'il est stupide. Ouais. Et donc, en ce sens-là, il est peut-être par certains côtés plus dangereux, ouais, Francis Lalanne, qu'a des élucubrations, des absurdité, et donc je le sens moins pervers par certains côtés.
Alors, Xavier de Namur sur Mathieu Kassovitz, tiens, est-ce que c'est pas parfois aussi la faute de certains médias de laisser parler des personnes qui on sait qui risquerait de franchir une limite, par exemple. Bon, alors, on le sait, c'est, on sait qu'il y a certaines personnes qui risqueraient d'aller trop loin.
Moi, je n'ai pas écouté...
À qui la faute ?
Alors, moi, je n'ai pas écouté tout ce qu'a dit Mathieu Kassovitz, dans le fait où il dit que c'est une manière d'exprimer une frustration des jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire qu'il y a une jeunesse qui sait pas comment, finalement, qui est frustrée, qui sait pas comment s'exprimer, et donc elle va caillasser stupidement des pompiers, alors que c'est des gens qui sauvent leurs parents. Alors peut-être qu'il faudrait leur faire un peu de pédagogie, en disant quand ta mère, t'es dans ta cité, comme dirait mon fils, wesh, t'es dans ta cité, ta mère, elle est en train d'agoniser, heureusement que les pompiers, ils viennent là pour la sauver. Donc à un moment, il va falloir tous ces mômes, quelque part, par l'école, par l'éducation, etc. Après que, entre Lalanne, qui est complotiste, qui dit qu'on est état de dictature, c'est effectivement, je suis d'accord avec Philippe Bilger, il n'y a rien à voir avec Mathieu Kassovitz, qui est un mec plutôt intelligent. Peut-être que là, est-ce qu'il a dérapé ou est-ce qu'on a mal compris ce qu'il a dit, c'est toujours pareil. On sort du contexte, moi, je n'ai pas entendu son discours, donc je ne peux pas trop intervenir dessus.
Voilà, moi, je l'ai entendu et je peux vous confirmer qu'il l'a effectivement dit et que ce n'est pas la première fois qu'il tient des propos pareils. Donc, je ne dirais pas effectivement que je le classerais dans le cadre de la stupidité. Non, il sait clairement et pertinemment ce qu'il fait et ce qu'il dit lorsqu'il est invité sur les plateaux.
Ouais. Mais ce qui est dommageable, c'est que Mathieu Kassovitz est aimé de beaucoup de jeunes. Hein.
Non, mais c'est pas parce qu'il dit que c'est une manière d'exprimer.
C'est un grand acteur.
Une frustration, il dit pas forcément qu'il excuse.
Non, non.
C'est ça.
Oui, il fait un constat. Il constate. Allez, on va se retrouver dans un court instant avec le premier débat des vrais voix. Restez avec nous. La voiture, donc, eh oui. La voiture interdite dans le centre de Paris d'ici 2022. On y est. D'autres villes ont la même ambition, comme Montpellier, par exemple, ou encore Marseille, qui s'est fixé un objectif. Zéro voiture dans les centres-villes d'ici à 10 ans. Faut-il piétonniser les centres-villes ? Voilà, c'est la question que l'on vous pose sur Twitter et YouTube. Il y a beaucoup à dire, hein, beaucoup à dire sur ce sujet. Qu'en pensez-vous ? Venez en discuter, en débattre avec Stella Kamga, Philippe Bilger, Xavier de Namur, nos vraies voix ce soir, 0826 300 300. Vous continuez de voter, évidemment. On se retrouve dans quelques minutes maintenant. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
À bicyclette, quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes.
Eh oui, à bicyclette, vous avez tous reconnu la voix d'Yves Montand. Alors bientôt, plus que des vélos, peut-être dans le centre de Paris. Fini la voiture, par exemple, la voiture interdite dans le centre de Paris d'ici 2022. Alors, plusieurs autres villes hein, ont cette ambition, comme Montpellier par exemple ou Marseille. Tiens, la ville de Montpellier par exemple en est à 22 km de longueur d'air piétonne. Marseille s'est fixé un objectif il y a un an maintenant, zéro voiture en centre-ville d'ici 10 ans. Alors évidemment pour les riverains c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, pour les travailleurs encore, je pense aux petits commerces, ça va devenir assez compliqué. Faut-il donc piétonniser les centres-villes? Vous votez sur Twitter et YouTube, on va faire un point sur vos votes dans quelques instants. Le 0826 300 300. On va accueillir Ludovic qui nous appelle de Rochefort. Je ne sais pas s'il est là, Ludovic. Bonsoir, Ludovic.
Oui, bonsoir.
Alors, vous êtes là. C'est parfait. Oui, oui. Bonsoir à vous, mon cher Ludovic. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger, Xavier Denamur, Stella Kamga ce soir qui est avec nous. Alors, je ne sais pas, vous habitez voilà, Rochefort. Comment ça se passe, tiens, Ludovic, dans votre région, dans votre ville en tout cas? Est-ce que le centre-ville, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent ou est-ce que c'est un peu piétonnisé quand même? Est-ce qu'on laisse plus de place aux piétons et aux vélos?
Alors à Rochefort, il y a peu d'espace purement piétonnier. Bon, il y a eu un développement d'une zone 30 et également bon un accès fait aussi, enfin un accès libre au niveau des vélos. À La Rochelle, par contre, ils ont piétonnisé le quartier du Vieux-Port entièrement, hormis pour les bus et les transports en commun. Et là, pour répondre globalement à votre question, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on parle encore d'interdiction au lieu de parler de cohabitation. En fait, la politique d'aménagement du territoire et du développement urbain doit être équilibrée et penser à tout le monde, penser à toutes les contraintes. Je veux bien entendre qu'il faut lutter contre la pollution, certaines nuisances sonores, mais également, bon, pour l'environnement, repenser lien social entre les gens. Mais quid, justement, des gens qui vont travailler, qui n'ont que ce moyen, quid des livraisons, quid de l'accès aux ressources culturelles, quid. Voilà, enfin, le véhicule l'invention du véhicule a permis une mobilité individuelle. Voilà, mais là, on va empêcher les gens d'y entrer. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Et puis, il faudrait également redévelopper dans ce cas les transports, permettre effacement dehors des grandes villes, redévelopper aussi les transports, mais dans des grandes métropoles, on ne peut pas forcément développer comme Paris, on ne peut pas développer davantage le métro. Voilà, c'est toute une politique vraiment à penser et à réfléchir. Mais pour moi, voilà, il faut penser équilibre et cohabitation au lieu de parler de penser interdiction.
Voilà, de l'interdiction, toujours de l'interdiction. Ouais. Tiens, Philippe Bilger, alors on pointe du doigt beaucoup Anne Hidalgo et on sait qu'elle déteste la voiture, hein, c'est un secret pour personne Anne Hidalgo, mais d'autres le font. Voilà, Marseille par exemple, zéro voiture. Philippe Bilger, comment vous expliquez
alors,
ça?
Philippe, et de la même manière que notre ami Ludovic, vous avez très bien posé le problème et le partage en quelque sorte. Moi, en tant que citoyen, en tant qu'amoureux de Paris, je pourrais seulement me féliciter de l'élargissement de cette zone piétonnière qui est peut-être destinée à couvrir 7% de la superficie. Mais en sortant un peu de mon champ égoïste, il est évident que je peux regretter que tout cela résulte d'une idéologie anti-voiture systématique et que, à l'évidence, on n'intègre jamais dans le raisonnement qui consiste à élargir la zone piétonnière et à faciliter la circulation des vélos, les activités professionnelles et commerciales, comme si en réalité Paris n'était destiné qu'à une catégorie de gens et pas aux autres. Ou alors il faut dire clairement que le commerce est honteux, la vie professionnelle détestable, mais si on ne considère pas ça, il faut faire une synthèse et réfléchir avant pour que tout le monde y trouve son compte. Ça n'est pas le cas, à mon sens, et je rejoins Ludovic, même si lui demeure à Rochefort.
Oui, tout à fait. Alors, Xavier, dans un instant, tiens, Stella Kamga, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bon pour les petits commerces, Stella. Hein,
non,
les petits...
déjà, et non seulement ce n'est pas bon pour les petits commerces...
Et les restaurateurs vont en parler avec vous, Xavier, oui.
Mais moi, mon problème, c'est la partie honnête, en fait. Je pense qu'il ne s'agit même pas que des pistes piétons, si ce n'est que des pistes piétons, et qu'il faudrait en créer plusieurs à Paris, ça, c'est pas la question. Mais le problème, c'est la suppression des voitures. Quand on supprime les voitures, ceux qui habitent en centre-ville, comment ils font? Ils se débarrassent de leurs voitures? Est-ce qu'ils auront des moratoires personnels? Comment est-ce qu'ils vont? Parce que quoi qu'on dise, la voiture, c'est pas qu'une histoire de luxe. C'est-à-dire que c'est des parents qui amènent leurs enfants rapidement à l'école pour en même temps se retrouver au travail. C'est un besoin. Maintenant, si on sort un peu de Paris et qu'on va dans les autres villes où clairement Paris a un net avantage sur la plupart des villes en France, c'est que Paris c'est très bien desservi et on peut y vivre sans voiture. Pour ceux qui sont proches, ouais, qui vivent dans Paris,
c'est pas le cas des autres villes. C'est pas le cas des autres villes.
Exactement. Les autres villes qui ne sont pas desservies, comme là où je vais et je suis par exemple contrainte pour le coup de passer mon permis et d'avoir une voiture. Comment je fais par exemple? Autant de choses, il faudrait penser à tout. Et comme l'invité qui est passé, je pense que c'est Ludovic, vous avez invité, ouais, qui l'a dit. Oui, c'est une question de coexistence. Il faut juste pas supprimer pour le besoin de supprimer. Vous supprimez, vous remplacez par quoi et quelles sont les prochaines alternatives?
Ou alors on peut imaginer des semaines, voilà, une semaine A, une semaine B, je sais pas, hein, je donne des exemples comme ça, une semaine A sans voiture, une semaine B avec voiture. Tiens, Xavier Demure, alors on est tous d'accord, hein, Ludovic, Philippe Bilger, c'est là, et il y en a un peu, il est un peu seul contre tous, c'est Xavier Demure. Xavier, si j'ai bien compris, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors déjà, il faut savoir de quoi on cause. Encore une fois, il faut aller sur le site de paris.fr avant de parler, parce que on parle de zones de trafic limitées et que c'est ce qui existe dans les villes européennes comme Madrid, Milan, Rome. Ouais. Je l'ai vu, moi, j'étais à Londres l'année dernière, j'étais aussi à Amsterdam, je connais très bien Copenhague, que j'ai visité la première fois, je crois que c'était en 81 ou 82. Et donc, ce n'est pas... De fait, on ne va pas retirer les voitures, c'est-à-dire qu'on va limiter pour que le moins de voitures possible rentre. Les gens qui habitent le centre de Paris ont des voitures pour se garer et rentrer. Les livreurs, tout ça, ça va permettre aussi, quand on parlait des commerçants, de permettre des livraisons qui soient mieux, les artisans de mieux travailler. Tout ça, ça sera toujours possible. L'idée, c'est que tous les gens qui traversent Paris, etc., faut travailler. Alors, je pense pas, quand on dit ça, on peut faire une zone de limitation comme ça, mais ça sera pas piéton. C'est n'importe quoi. Piéton, y aura peut-être une partie Paris-Centre sur, je dirais, 1, 2, 3, 4, vraiment le Paris-Centre. Mais pas avant 5 ou 6. Je
vais finir. Oui, à vos souhaits, c'était là.
Pas avant 5 ou 6 ans, parce que ça demande de mettre, par exemple, des rues en plateau et tout, ça demande un boulot de malade, ça coûte très cher. Donc ça va pas se faire en 2 minutes. On a du retard. Moi, encore une fois, j'ai vu dans des villes, comme je te disais tout à l'heure, j'étais à Copenhague la première fois, je crois que ça devait être en 82. J'ai vu des villes où tout d'un coup, on avait des gens qui roulaient en vélo et qui roulaient bien en vélo. Moi, ouais, je me suis fait renverser par un vélo sur un trottoir dans Paris. C'est-à-dire que tout ça, c'est qu'est-ce qu'il faut cohabiter? C'est les voitures, les taxis, les vélos, et comprendre comment tout ça fonctionne. Pour que demain, effectivement, Paris respire. Les grandes villes ont besoin de respirer parce qu'on sait que ça tue plus les pollutions, tue plus que le Covid. Donc ça, c'est une vraie catastrophe. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut qu'effectivement les gens pensent qu'on peut vivre quand t'as des enfants, une grande famille. C'est vrai que t'as besoin peut-être de ta bagnole, mais quand t'es dans Paris Centre, moi j'ai des copains qui sont dans Paris Centre, ils ont une bagnole. Je dis, je comprends pas. Moi, j'ai pas de voiture. T'as pas besoin, quand t'habites dans le centre de Paris, t'as pas de voiture. Et je comprends pour les gens qui habitent en banlieue qui ont besoin de venir y travailler. Eux, ils pourront y venir, qui travaillent, mais vraiment parce qu'ils ont besoin de leur bagnole. Et les autres, bah, il faut trouver avec la région, ça sera tout un travail, de savoir comment on installe des zones tampons, des zones de parking pour les gens qui n'ont pas, par exemple, de transport en commun. Mais normalement, dans l'idée du Grand Paris, tout ça doit se travailler ensemble entre la ville de Paris, les communes environnantes et, je dirais, la région entière. Tout ça, ça prend du temps et ça ne va pas se faire en 2022. Donc il faut arrêter. Et ça ne sera pas piétonisation, ça ne sera pas une piétonisation totale. On aura toujours des voitures. L'idée, c'est de réduire. Et ça a déjà réduit. Par contre, ce qu'il faut, c'est construire un vrai réseau, transport en commun, vélo, etc.
Bon, de toute façon, d'ici 10-15 ans, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Bilger, on aura les voitures volantes. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, enfin, il y a 30 ans, quand j'étais tout gamin, on me disait qu'en 2015-2020, on volerait avec des voitures volantes. On n'y est toujours pas, hein, on est revenu au vélo électrique. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger, avec la technologie d'ici une quinzaine, une vingtaine d'années?
Mais c'est pas incompatible, Philippe. Moi, comme dirait Keynes, à la longue, on sera tous morts en ce qui me concerne,
le plus tard possible, mon cher Philippe.
Il est intéressant de voir qu'à la fois, on peut concilier une forme de régression, vous évoquez les vélos, et d'autre part, se projeter de manière presque très imaginative dans le futur. La modernité absolue n'est peut-être pas incompatible avec l'heureuse fameuse régression, mettre ouais. ensemble le vélo et la soucoupe volante de demain. Ouais. Quoi.
Alors, on vous posait cette question sur Twitter et YouTube, Paris-Marseille, la voiture est-elle condamnée dans les centres-villes? Score final, vous dites oui, voilà, oui à 71%, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.
J'avais juste un truc à rajouter.
Les vraies voix Sud Radio.
Allez, qu'est-ce que vous voulez rajouter,
Xavier ? Il y a 30 ans, j'ai demandé à la ville de Paris, à l'époque c'était Tibéri, je crois, etc. On avait demandé que ce soit piéton le dimanche dans le Marais, etc. Tout le monde s'était foutu de ma gueule, etc. C'est Bertinotti, genre 15 ans ou 20 ans plus tard, qui l'a fait. Depuis, ça s'est fait. Tous les quartiers de Paris, le dimanche, c'est Paris Respire, il n'y a plus de bagnole. Donc ça veut dire qu'on pouvait se foutre de la gueule de toi 30 ans avant et on voit que les choses, les mentalités, les choses ouais, se font et c'est possible.
Et ben voilà. Tiens, bah, Toulouse, Marseille, Bordeaux, vous nous écoutez. On va vous envoyer Xavier de Namur d'ici quelques années, votre ville respirera avec Xavier. Voilà. La vaccination des plus de 12 ans a débuté aux États-Unis, figurez-vous. Et oui, certains adolescents ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Alors, évidemment, Israël est un des pays à avoir démarré la vaccination des plus de 12 ans. C'est un vrai sujet puisque on sait que les plus de 12 ans, alors, ils n'ont pas de forme grave de Covid, de forme tout court même, et ils sont très très contaminants. D'ailleurs, c'est pour ça que Emmanuel Macron a décidé de fermer les écoles il y a quelques semaines. Et la question que l'on vous pose, c'est est-ce qu'il faut vacciner en France les enfants et surtout sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut élargir la vaccination à tout le monde? Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. Avant d'avoir la réaction de nos vraies voix, je vous donne la parole. Alain nous appelle du Gers, il est avec nous. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Alain. Bienvenue dans les vraies voix.
Je vous remercie de me donner la parole.
Mais c'est un plaisir, Alain.
Mon avis n'a pas une grande importance. Parce
si,
que
si, ah bah si, détrompez-vous. Allez-y, Alain.
Lambda et, par contre, si je compile tous les articles ou les sujets qu'on entend sur chez vous, ouais, parce que c'est une mine d'informations,
ouais.
C'est très intéressant, ben, il ressort que c'est, qu'on est dans un truc de fou, quoi, tout simplement.
Alors pourquoi ? Pour
moi, la vaccination déjà des adultes, on pourra en reparler, parce que Dupont-Aignan, je voudrais pas sortir du sujet, Dupont-Aignan a attaqué à la télévision sur CNews, il a dit, voilà, le gouvernement n'a pas proposé de solution alternative ou a refusé qu'on se penche sur les médicaments naturels.
Ouais. Oui, alors ça, bon. Alors déjà, les traitements qui ne sont pas naturels, c'est compliqué puisqu'il n'a pas été prouvé qu'ils marchaient. Alors, les traitements naturels, encore moins. C'est vrai que pour l'instant, hein, mon cher Alain, et on a vu dans certains pays que la vaccination fonctionnait et qu'avec une population qui se vaccinait en masse, eh bien, il n'y avait quasiment plus de Covid. Là encore, je reprends l'exemple d'Israël où, depuis quelques jours, il circule sans masque en extérieur. Mais effectivement, il faut aussi, en plus de la vaccination, vous avez raison, Alain, s'attaquer à des traitements contre le Covid. Hélène est avec nous, nous appelle de Bergerac. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir, merci de me donner la parole.
Bonsoir Hélène.
Je suis un petit
Hélène.
Peu d'accord avec Alain.
Avec Alain, oui.
Parce que les premiers cas de Covid en Savoie, ça avait été importé par une famille anglaise. Le gamin a fait 3 écoles, ça n'a déclenché aucun Covid dans ce cas-là.
Ouais.
Et les enfants ne sont pas malades. Et
ils ne contaminent pas.
Il y a plein d'études qui prouvent que les gamins, ils ont un système immunitaire qui fait qu'ils combattent le Covid et qu'ils ne contaminent pas. Que les gens qui craignent se fassent vacciner, il n'y a pas de problème. Mais les gamins, pourquoi on touche aux enfants?
De quelle étude pourquoi vous parlez? Quelle étude dit ça?
Oh, il y a pas mal d'études qui prouvent déjà que les gosses sont pas malades.
Ouais.
Ils font des Covid, ils font des rhumes et c'est tout. Et ils transmettent pas.
Ouais. Alors, notez bien, chère Hélène, l'étude.
Alors, qu'on isole les personnes âgées ou les personnes à risque, d'accord. Mais qu'on touche pas aux enfants, laissez-les vivre. Ils sont tranquilles.
Alors, restez avec nous, Hélène et Alain. Tiens, Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce qu'il faut être prudent et
vacciner les plus de 12 ans?
A priori, je comprends Alain et Hélène, bien sûr, qui ont tout à fait le droit de penser Alain comme Dupont-Aignan, mais dans la mesure où moi-même, je l'ai assez répété, je ne me sens pas du tout armé pour discuter dans le détail de tout cela, et que, évidemment, je suis très partisan des vaccins, j'ai tendance à considérer que, à partir du moment où d'aucuns qui savent des choses Rose évoque la nécessité de leur élargissement même aux enfants, je ne me sens pas la capacité ni le savoir pour le discuter. Alors peut-être suis-je naïf, mais je me dis qu'au fond, si on le suggère,
ouais,
et si le vaccin est une bonne chose, peut-être est-il souhaitable de généraliser ce bienfait.
Alors,
c'est tout ce que je dis.
Vous avez des grands, voilà, vous avez des grands, très grands enfants, Philippe, mais vous, voilà, si vous aviez des petits-enfants, voilà, des enfants en bas âge, est-ce que vous les vaccineriez ou pas?
Mais Philippe, si on me démontrait, si on me disait des gens en qui j'ai confiance sur le plan du savoir et de l'expertise que c'est bon pour eux, je n'aurais aucun scrupule à le faire.
Ouais, Xavier. Xavier de Namur.
Moi, je suis comme Philippe, je suis pas médecin, donc ouais, je vais pas donner mon avis sur ce qu'on vaccine les enfants. Quand il faut avoir des vaccins qu'on a fait pour les enfants, moi j'ai fait à mon fils tous les vaccins qui étaient autorisés,
oui,
enfin,
oui,
qui étaient légaux.
Il
y a,
oui,
pas de problème. Moi, ce que je pense, c'est plutôt, et on l'a vu en Israël ou on en voit dans d'autres pays, on sait que c'est surtout les jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont descendus jusqu'à 18, les ados, plus, ouais, de 16 ans. Et je crois que c'est là le gros truc, c'est faut vraiment vacciner, faut que toute cette population se fasse vacciner. Je crois que c'est les premiers, ils sont d'accord à aller se faire vacciner. Après, effectivement, les enfants, c'est un autre sujet, il faudra tous les contrôles, tous les trucs, mais là, à part les autorités compétentes européennes, internationales, pour l'instant, je patienterai sur cette petite,
ouais,
petite dose, quoi.
Alors, on parle beaucoup du développement de l'enfant, mais à 13-14 ans, ils sont assez développés en général.
Voilà, c'est ça,
les
à
enfants,
ce moment-là,
bon,
c'est là. Donc, moi,
ça,
je pense
que
c'est surtout les adolescents, parce qu'en fait, ouais, finalement, c'est beaucoup les jeunes. Je vois les étudiants, etc., là, et tout ce qu'ils attendent, ils finissent les examens,
ouais,
c'est de se retrouver, ouais, ensemble et tout.
Les 16-25 ans, quoi. Les,
ouais, les 16-25 ans. Donc là, tout ça, ils passent à la picouse, et puis, ouais, comme ça, ils font la teuf, et tout le monde fera la teuf cet été.
On va y arriver, à la vaccination pour tous, c'est le 15 juin, je crois. Tiens, Stella Kamga, qu'est-ce que vous en pensez, Stella?
Je vais répondre comme mes co-invités, c'est-à-dire que je n'ai pas la compétence pour dire à un parent si effectivement il doit vacciner son enfant ou pas, mais jusqu'à preuve de contraire et jusqu'ici, on a un exemple vivant sur le plateau, Philippe Bigier, il s'est fait vacciner. Il a l'air de très bien se porter.
Ah oui. Bah moi aussi, je me suis fait vacciner. Hein. J'ai été me faire vacciner la première dose. Bah, je suis en parfaite forme. Oui, je suis en très bonne forme. Oui.
Voilà, entre ça et les résultats positifs qu'on ne fait que recevoir, que ce soit même en France ou même du Royaume-Uni ou même d'Israël, il n'y a que des résultats positifs. Bon, après, il y a des cas, il y a des exceptions, mais jusqu'ici, les résultats semblent positifs par rapport à la vaccination. Donc voilà, je ne vais pas dire à un parent, ne va pas vacciner ton enfant. Moi, j'aime bien observer et quand je vois que quelque chose marche, je suis beaucoup plus rassurée et moins inquiétée, donc je fais ce qui marche.
En tout cas, grâce à la vaccination, et on l'espère, on va retrouver une vie normale d'ici quelques mois. Tiens, Alain et Hélène, vous êtes avec nous. Alain, vous êtes confiant, on rouvre les terrasses le 19 mai, le déconfinement se prépare. Vous êtes confiant pour la suite, le retour à la vie normale, ça y est, on y est une fois pour toutes, Alain?
Oui, je pense, on va nous maintenir encore un peu dans la peur, mais, et pour revenir sur ce que vous disiez, moi, je suis pas connaisseur, mais il y a un collectif de 100 médecins en Israël qui a quand même mis en garde les pouvoirs publics là-bas pour dire que c'était dangereux d'anticiper et de vacciner les petits. Mais bon, ensuite,
qu'est-ce qu'ils appellent les petits? Bon, peut-être les 4, 5, 6 ans, effectivement.
Oui, voilà, par rapport au développement, ils expliquent qu'on ne sait pas, mais parce que, tout le monde dit on va bien parce qu'on s'est fait vacciner. Mais il faut regarder sur du long terme quand même après.
Bon. Hélène, qu'est-ce que vous avez prévu mercredi prochain, le 19 mai? On rouvre les terrasses. Comment ça se passe à Bergerac, ma chère Hélène? Mercredi matin, qu'est-ce que vous allez faire? Une petite terrasse?
J'espère qu'on pourra profiter des cafés.
J'espère qu'on
pourra en profiter. Mais il y a un monsieur qui a fait appel au Conseil d'État parce qu'il avait les deux vaccinations et il demandait à ne pas porter le masque et à ne pas être confiné. Et le Conseil d'État a bien dit, la vaccination n'empêche pas de transmettre ni d'attraper le Covid.
Ah, ça donc, c'est sûr. C'est juste pour préserver d'une forme grave, Xavier.
Oui, voilà. Oui. Donc, les gosses font pas de forme grave, pourquoi on va embêter les enfants?
Xavier.
Et d'autre part, on est qu'en phase 3 des essais. Il faut bien se dire que les gens qui se font vacciner sont des cobayes. On n'a pas terminé les essais sur la vaccination.
Ne vous en faites pas, faites confiance. Si on a autorisé et qu'on vend les vaccins, c'est que tout a été respecté et qu'il n'y a aucun risque. Rassurez-vous, je vous rassure, ma chère Hélène. Vous pouvez aller vous faire vacciner.
J'ai eu des effets secondaires. C'est vrai que j'étais prendre ma première gorgée d'AstraZeneca chez mon pharmacien et j'allais
courageux.
Avec une petite caisse de bière, parce que je dis toujours à Christian, c'est mon pharmacien, c'est mieux qu'il pique pas bourré. C'est comme, et donc j'avais dit, faut faire attention. Donc j'allais rentrer dans la pharmacie et tu vois, je parlais tout à l'heure, j'ai pris un vélo en pleine tronche. Ouais. Et donc les effets secondaires, toi, j'ai une minerve, c'est parce que j'étais me faire vacciner. C'est au moment où je vais me faire vacciner, c'est même filmé. Tout le monde pensait que c'était un gag. Non, non, j'ai pris un vélo électrique en pleine tronche et je vais faire le lien avec ça en disant que c'est peut-être plus dangereux donc de prendre sa voiture et tout que de se faire vacciner. Et que moi, ce que je demanderais, si je peux me permettre de faire une petite digression, c'est de demander aux autorités de faire en sorte que les vélos, les scooters, tout ça qui roulent sur les trottoirs, ce soit comme pour la voiture. Et ben, c'est confiscation du véhicule et une amende et tu passes au tribunal. Parce qu'il va falloir retrouver de la civilité.
Ça, c'est vrai.
Et je crois
c'est
que Pascal, Philippe Bilger, ouais, pardon, Philippe qui connaît un peu la loi, je trouve qu'on devrait avoir la même chose et ça serait
très
pas pour la répression. Je pense qu'au moment, il faut avoir des lois pour que les gens respectent.
Oui, je me souviens, c'était la dernière, ça serait bien aussi qu'on.
Voilà, exactement, j'ai failli me faire tuer à Paris par un scooter et renverser par un vélo. Donc je ne sais que trop bien ce que vous dites, monsieur. Ça, c'est très vrai.
Vous avez raison. Allez, faut-il ouvrir la vaccination à toutes les classes d'âge? C'est la question que l'on vous posait sur Twitter et YouTube. C'est assez partagé, vous dites non à 55%. Voilà, c'est le score final sur les réseaux sociaux, les débats des vraies voix, évidemment. À réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application sur Sud Radio, sur toutes les plateformes, il y en a beaucoup. Vous pouvez retrouver Sud Radio comme Radio Player, par exemple. Et puis les débats à retrouver également en vidéo sur notre chaîne YouTube. On va jouer au roi de l'info dans un instant, 0826-300-300. Appelez-nous pour faire équipe avec Stella, par exemple, Philippe Bilger ou encore Xavier de Namur. 0826-300-300. On revient très vite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Avec Stella Kamga ce soir, les vraies voix, Philippe Bilger, Xavier de Namur, Jean-Marie Bordry. On joue au roi de l'info, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Voilà, le roi de l'info, on va jouer tous ensemble avec Jean-Marie.
Et direction l'Île-de-France, on trouve Jérémy au 0826-300-300. Bonsoir à vous Jérémy.
Bonsoir Jérémy, bonsoir Philippe, bonsoir Fébéguet.
Bonsoir.
Bienvenue
bonsoir.
Sur Sud Radio. Jérémy, merci. D'abord, je vais vous proposer de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez faire équipe contre les deux autres, Stella Kamga, Philippe Bilger, Xavier de Namur. Vous choisissez.
Philippe Bilger.
Allez, c'est parti. Je vais vous poser trois questions. Jérémy, vous avez le droit de vous tromper, le cas échéant ou de ne pas avoir la réponse. Si vous vous trompez, les trois vraies voix ensuite répondent. Et si Philippe Bilger a la première bonne réponse, il vous rapporte le point. C'est parti ?
Parfait.
Allez, on y va. C'est assez facile. Normalement, nous sommes le 13 mai. C'est l'anniversaire d'un chanteur très célèbre. Il a 71 ans aujourd'hui. Il est justement l'interprète de cette chanson culte qui est de circonstance pour lui aujourd'hui. Qui est-il ?
C'est Stevie Wonder ?
Bravo, Stevie Wonder. 13 mai 1950 à Saguenay. Oh oui, mais il y a plein de gens qui connaissent. Tout le monde connaît cette chanson.
La chanson, mais pas l'interprète.
Mais du coup, vous avez le doute, effectivement. Ouais. Ça peut arriver, pourquoi pas. Un point pour vous, Jérémy. On continue. L'un des buzz de cette semaine, c'est cette intervention du député Jean Lassalle à l'Assemblée nationale. Écoutez bien, Jean Lassalle parle de certains lieux qui...
sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents. Et je ne compte même pas les ministres.
D'après vous, c'était quoi ces lieux ?
Alors, c'est un club échangiste.
Effectivement. Et Jean Lassalle, du coup, se plaignait du fait que les clubs échangistes étaient restés ouverts alors que les boîtes de nuit, elles, étaient restées fermées. Deux points, vous avez déjà gagné. On termine pour le principe, pour le plaisir. Une autre.
Est-ce qu'il partouzait à plus de 6, c'est ça le
bravo,
problème.
Bravo. De toute façon, alors, question légitime, mais je vous rappelle que ceux qui sont restés ouverts.
Des gestes barrières.
Alors, vous faites ce que vous voulez, mais mentalement, mon cher Xavier Denami.
Compliqué.
Voilà. Allez, on continue, Jérémy. On termine en beauté. La vidéo qui a fait sourire aussi les internautes, c'est cette vidéo d'un couple d'automobilistes. C'était près d'Angers dans la semaine. Alors, ils sont en train de rouler les automobilistes sur une départementale au milieu d'une forêt. Et devant eux, ils aperçoivent un drôle d'animal. Ils sont surpris. Ils rigolent.
Et effectivement, on ne voit pas ça tous les jours. Hein.
Il ne voit pas ça tous les jours. D'après vous, c'était quoi l'animal qui était en train de divaguer sur la route? Réponse numéro 1, facochère. Réponse numéro 2, lama. Réponse numéro 3, zèbre.
Alors un zèbre rangé, ça me paraît un peu bizarre.
Les trois, hein. Concrètement, ils sont pas de la région, je vous le confirme.
Ouais, mais oui. Si ça a fait le buzz, moi je dirais le lama.
Bien vu. C'était le lama, effectivement. On ne sait pas du tout à qui il appartenait. Il se baladait, il gambadait tout seul au milieu de la route. Ça rappelle aussi un autre lama cultissime du côté de Bordeaux qui s'appelait Serge. Ou qui s'était fait
pris le métro, exactement.
Voilà, il s'était fait appeler Serge. En tout cas, ce lama, ça, c'était le bordelais. Je ne sais pas comment s'appelle celui qui se baladait près d'Angers. Bref, restez en ligne, mon cher Jérémy. On vous embrasse très fort. Et puis, vous allez rester en ligne. Zacharias vous retrouve au standard de Sud Radio. Il vous envoie un mug Sud Radio. Continuez surtout à écouter Sud Radio, quelle que soit l'heure d'ailleurs de la journée, même le jeudi
sans
de l'Ascension.
Faute, hein.
Sans faute, bravo.
Ouais,
bravo,
Jérémy. Il nous a aplati là aujourd'hui.
Ouais, il vous a rétamé, Jérémy.
Ah oui, il a été bon. Hein. Merci à vous, Jérémy. Dans un instant, c'est le grand débat des vraies voix. Le conflit entre Israël et le Hamas ce week-end. De nombreuses manifestations en soutien aux Palestiniens ont lieu en France. Alors, celle de Paris, en tout cas, Gérald Darmanin a demandé au préfet de l'interdire. Est-ce que vous craignez des débordements? Le conflit Israël-Palestine risque-t-il de s'importer en France? Vous dites oui à 81%. 0826 300 300 pour en débattre avec nous. L'ancien maire de Sarcelles, député modem du Val d'Oise, sera avec nous dans quelques minutes. François Pupponi, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Et bienvenue à vous en ce jour de l'Ascension, en ce jour de long week-end. Les vraies voix sont de retour avec le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, avec l'étudiante blogueuse Stella Kamga, avec Xavier de Namur, voilà, célèbre restaurateur qui est très agité, très motivé parce qu'il va rouvrir ses terrasses à partir de mercredi prochain. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi prochain, nous ferons l'émission Lèverez-vous en direct d'une terrasse, notamment celle de Xavier de Namur. Voilà, mercredi prochain entre 17h et 19h. Dans quelques minutes, c'est le grand débat des vraies voix. Faut-il craindre une importation du conflit israélo-palestinien en France? Plusieurs manifestations sont prévues ce week-end. Beaucoup craignent des débordements. 0826 300 300. J'attends vos réactions. Vous votez sur Twitter et YouTube. Et puis, l'ancien maire de Sarcelles, député modem du Val-d'Oise, sera avec nous dans quelques minutes. François Pupponi, voilà, pour débattre. Et puis, évidemment, plus près de nous et dans un court instant, les confidences d'une ancienne fille de Madame Claude. Elle s'appelle Patricia Hersman. Elle est avec nous. Bonsoir Patricia. Frédéric Ploquin également, le journaliste, est avec nous puisqu'ils ont écrit un livre, Call Girl du Tout Paris. Voilà, c'est aux éditions du Nouveau Monde. On vous a beaucoup vu, hein, Frédéric et Patricia, ces derniers jours, nous raconter, voilà, ce que vous avez vécu durant toutes ces années. Eh bien, vous allez
Patricia a vécu.
Alors Frédéric, un travail d'auteur, d'archives. Il n'a pas vécu avec Patricia entre 75 et 1985-90. On va en reparler avec vous dans quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Xavier de Namur, Stella Kamga, Philippe Bilger. Et évidemment, on se souvient tous de Madame Claude, de ce qu'on en a vu, de ce qu'on en a lu et de son célèbre réseau de filles. Et une des filles de Madame Claude est avec nous ce soir, avec son co-auteur. On est ravis de la recevoir. Hein. On a fait connaissance avec elle un petit peu avant la pause. C'est Patricia Hersman, accompagnée du journaliste Frédéric Ploquin. Voilà pour le livre Call Girl du Tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Ça marche pas mal et je vous conseille vraiment ce livre. Voilà, Philippe Bilger, Stella Kamga, Xavier de Namur, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Alors évidemment qu'on a tous lu quelques histoires sur Madame Claude, alors des anecdotes qui parfois sont vraies ou fausses, on ne sait pas, vous allez nous le dire. On se fait une certaine idée de Madame Claude et de son réseau, et bien souvent ce sont des fausses idées, et c'est pour ça que vous avez voulu faire ce livre, hein, Patricia Hersman. Parlez bien devant le micro, et Frédéric Ploquin. Patricia.
Oui, en ce qui me concerne, c'est le cas. Je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure sur son personnage, sur la manière dont les choses se passaient, sur la façon surtout dont elle traitait ses filles, parce que là-dessus, on a brodé énormément et toujours dans le mauvais sens, bien évidemment. Et voilà, et suite à la rencontre que j'ai...
Voilà, donc vous avez rencontré Frédéric Ploquin.
Voilà, tout à fait, et bah, ça nous a permis à tous les deux d'avoir une idée commune et de mettre ce livre au monde.
Bon, très bien, Frédéric, ça faisait depuis quelque temps vous vouliez compter Madame Claude.
Je m'intéressais beaucoup à la période de la brigade mondaine. Vous savez que je travaille beaucoup sur la police.
Ouais.
Et la période de la brigade mondaine est passionnante parce que c'est une époque où, en gros, ce sont les policiers qui gèrent indirectement les bordels à Paris. Et les filles, en gros, il y a des relations très suivies et la mondaine, la brigade mondaine va en permanence chercher de l'info auprès des macs et des macrelles. Et je voulais faire ça et c'est à ce moment-là que je rencontre Patricia et qui commence à me parler de Madame Claude et je me rends compte que nous journalistes on la connaît pas, que nous citoyens on la connaît pas, qu'on a tous un fantasme à l'esprit la concernant et tout d'un coup je me retrouve face à quelqu'un qui la connaît de l'intérieur, qui a travaillé directement avec elle, dont Madame Claude pensait qu'elle allait peut-être être son héritière, dont Madame Claude lui disait j'aurais aimé que vous soyez ma fille, donc quelqu'un qui avait un lien et une vraie expérience de l'intérieur et je me suis dit ce livre n'existait pas, il faut le faire.
Bon, et elle était comment, tiens, Madame Claude, on a une image de Madame Claude relativement froide, un peu dure, elle était comme ça ou...
Elle peut sembler comme ça de prime abord, mais effectivement, dès qu'on est passé, je peux dire, je ne veux pas parler d'examen, mais enfin, elle vous jauge très très vite, et en tant que fille, hein, j'entends, et dès qu'elle perçoit chez vous quelque chose qui peut l'intéresser, pas spécifiquement au niveau du travail, hein, je parle au niveau humain essentiellement, Elle devient elle-même. Et moi, j'étais à la recherche de ça dans toutes mes relations, dans toute ma vie, avec tous les gens que j'ai rencontrés, d'essayer de percer la carapace. S'il y en avait
un peu
une.
Maternelle,
Madame Claude était surtout peut-être. Très, oui, non, elle avait ce regard pointu sur les choses, mais on pouvait vraiment s'adresser à elle pour gérer et nous aider à gérer n'importe quel problème du quotidien.
Alors avant de donner la parole aux vraies voix, les laisser réagir, poser des questions, juste vous avez intégré le réseau Patricia de Madame Claude en 1975 et vous dites c'était la plus belle année de ma vie. Pourquoi?
Oui, a posteriori, quand je réfléchis à mon passé, à ma vie en général, c'était vraiment parce que ça s'est fait dans une période où la vie était différente, où tout était plus facile. Et puis, quand on est bombardé, entre guillemets, dans l'élite des 10 ou 20 plus belles filles de Paris, quand on a 18 ans, c'est quand même pas déplaisant. Surtout une fiche de paye, si tant est qu'il y en avait une, conséquente, comme c'était le cas.
Ouais. Et vous dites, je n'offrais pas mon corps, je louais mon temps.
Oui, tout à
fait. C'est quoi la différence?
Bah, écoutez, l'histoire du corps, c'est juste une petite parenthèse dans le rendez-vous.
Ouais. Oui, tout à fait. Enfin, c'est la finalité, quoi.
Voilà.
D'accord.
Allez. Il fallait pas quand même l'oublier. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un rapport humain qui se créait avec les clients. Oui. Parce que les clients de Madame Claude, c'est quand même l'aristocratie, ce sont les notables, ce sont les archevêques, ce sont les hommes politiques, les ministres, les gens comme ça, qui eux vivent une vie stressante. C'est ça que j'ai compris en écoutant Patricia. Ouais. Vivent une vie stressante tous les jours. Et quand ils prenaient un petit rendez-vous avec elle qui durait 2 heures, il y avait quand même au moins une partie, la moitié consacrée à l'âme, à la discussion, où les gars s'épanchaient, où les gars trouvaient une oreille attentive qu'ils n'avaient pas dans leur conseil d'administration. Et sur le lit de Patricia, ou dans son petit studio, qui n'était pas loin d'ailleurs d'ici, il y avait cette oreille. Mais évidemment, à la finalité, Patricia, quand ils oubliaient étaient venus pour le sexe, tu leur rappelais.
C'est arrivé que certains oublient
pourquoi ils étaient venus. C'est arrivé qu'ils s'endorment à côté de vous.
Non, pas du tout. Enfin, pas s'endormir, non. Mais
Alors, Philippe Bilger.
Moi, ce qui me passionne, comme toujours, si Patricia, si elle le permet... Comment en est-elle venue là, en 75? Elle a des dons, des talents, des qualités. Pourquoi se sont-elles traduites par le choix d'un tel univers?
Bon, écoutez, je pense que la première des qualités que je devais avoir à l'époque, puisque ça a occasionné le démarchage, entre guillemets, assidu de la secrétaire de Madame Claude, c'est que je devais être quand même pas désagréable à regarder, à la base. Après, en ce qui concerne mon choix...
Je confirme, il y a les photos dans le livre. Hein. Voilà.
Après, en ce qui concerne mon choix personnel, j'ai pris ça comme une opportunité, sachant que rien n'est jamais définitif dans la vie. Voilà. Donc j'ai dit, pourquoi pas essayer ça?
Juste un mot, tu es donc, Patricia, allée acheter le livre de Madame Claude en 1975 avec ta maman. Oui, vous êtes allée à la librairie dans le quartier, parce que tu as grandi dans le 16e arrondissement, pas loin d'ici, une fille de la bourgeoisie. Et avec ta maman, vous êtes allée acheter le livre de Madame Claude, vous l'avez lu ensemble, et là, tu t'es dit, ça c'est le job qu'il me faut.
Non, j'ai pas dit ça, c'est pas exactement présenté comme ça, mais... Disons que moi, j'ai entendu parler de Madame Claude quand j'étais petite fille, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, mes parents sont partis un jour au sport d'hiver et ont rencontré là-bas Mitsuko, qui était à l'époque, je parle de ça, je devais avoir 10 ans, donc c'était dans les années 65 à peu près, 65-66. Ils ont rencontré Mitsuko, donc j'ai entendu parler de ça, qui c'est Madame Claude, machin, bon, j'entendais mes parents en parler ensemble. Et puis voilà, donc, et quand je suis retombée sur le fait que la promo de son bouquin, etc., j'ai dit, tiens, je vais aller voir ce qu'elle raconte, cette dame.
Mais la question de Philippe Bilbiger, c'est pourquoi t'es pas devenue boulangère? Pourquoi t'es pas devenue publicitaire?
De toute façon, voilà, j'aurais pas pu être boulangère parce que j'avais pas la passion de la farine. Mais j'ai expliqué que c'était à l'époque, ça m'a été présenté comme quelque chose de pas désagréable du tout. Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Xavier de Namur, je vous donne la parole dans un instant. J'aimerais avoir l'avis, voilà, de la seule femme de ce plateau, à part Patricia, Stella Kamga, sur tout ce que vient de raconter Patricia.
Donc, si je peux me permettre, madame, vous êtes toujours aussi belle. ça, c'est vrai.
Gentil, merci.
Et ça fait pas longtemps, qu'est-ce que j'ai dit, ça fait à peine 2 jours que je viens de finir le livre qui est sorti, le film qui est sorti sur Netflix de Madame Claude. Et oui, effectivement, la première question que je voulais vous poser, vous y avez quand même déjà répondu, c'est ce qu'elle traitait vraiment ses filles comme le film le décrit. C'est-à-dire, est-ce qu'elle laissait ses filles se faire battre par des clients uniquement pour être bien payées? Mais vous êtes en train de dire que non. Donc, c'est vrai que on présente un peu Madame Claude dans le film comme une femme froide qui a énormément fait confiance et qui a été déçue par la vie. Et au final, elle a fini sa vie en étant détestée déjà de sa propre fille, même si bien évidemment à la fin du film on montre que la fille a quand même essayé de vouloir recoller les morceaux quand elle a appris que sa mère risquait la prison, parce que quand la brigade mondaine justement l'a laissée tomber, et elle était devenue la proie du fisc et de tous les ennemis qu'elle s'était faite. Donc en fait, ça reste une histoire assez palpitante, et me dire que j'ai quelqu'un, enfin c'est vrai que je suis pas sur le plateau, mais que je discute avec quelqu'un qui a vécu tout ça, c'est quand même énorme, quoi. Je vais mettre ça dans ma biographie.
Bon, ben très bien.
Bon, après c'est pas une question.
Non, mais c'est une réaction.
En quoi la Madame Claude que tu as connue était différente de celle que qu'on a vue au cinéma?
C'est un peu ça qu'elle se pose. Hein.
Pourquoi elle avait cette image-là, d'ailleurs, Madame Claude?
Ça, il faut demander à tous les médias qui, depuis 40 ans, s'évertuent de faire d'elle un personnage désagréable, dictateur et inhumain, quasiment. Ouais. J'ai même lu qu'elle était un monstre.
Ouais.
En termes clairs, qu'elle prenait le pourboire des filles, les cadeaux des filles.
Oui, c'est vrai que ça a été dit,
Mais absolument pas. Ça, je le certifie sur ma vie, sur ce que j'ai de plus cher au monde. Jamais, jamais.
Xavier de Namur. Philippe.
Non, je voulais dire que j'ai eu la chance d'être à CNews à côté d'elle lors d'un débat. Et pour quelqu'un qui ne la connaît pas, c'est sûr qu'elle peut donner l'apparence d'une grande froideur, d'une grande maîtrise d'elle-même. Mais ça n'est pas incompatible avec ce que dit Patricia, qui la connaît mieux que moi.
Eh oui. Xavier de Namur.
Oui, moi je vais citer Madame Claude qui a dit « Deux choses marchent dans la vie ». La bouffe et le sexe, je n'étais pas doué pour la cuisine. Ouf, j'aurais une concurrente grave, parce que ce que je vais me poser comme question, c'est que je pense que, moi je connais pas du tout l'histoire de Madame Claude, si c'est ce qu'on raconte d'elle, mais en tout cas, je trouve qu'on a un peu quand même l'impression que tout est un peu, c'est beau, c'est, on appelle des co-girls, c'est pas des putes, etc. Parce que c'est des ministres, il y a des ministres, il y a des gens qui ont du pognon, c'est des filles qui sont belles, on les prend pour une journée ou pour plus tard, etc. Mais quand même, je regarde quand même qu'à la fin, elle a été condamnée pour proxénétisme, pour, vous parlez tout à l'heure de fiches de paye, je pense qu'il ne devait pas y en avoir des masses, etc. Donc, et ça reste quand même, on parle quand même de quelqu'un qui avait jusqu'à, j'ai cru comprendre, 500 filles, et donc on est quand même la femme, hein,
ou peut-être jamais pas, ou peut-être, alors peut-être. Elle a peut-être eu 500 filles dans tout son parcours, mais ça a duré quand même plus de 20 ans.
Plus de 20 ans, en tout cas, j'ai cru lire, que j'ai lu tout à l'heure, elle faisait tester les filles par des gens pour voir. Donc on a un peu l'impression, elle t'a fait du test, enfin, c'est ce qui se dit, moi après j'ai pas lu le livre. Est-ce que c'est justement, je pose cette question, est-ce qu'il n'y a pas quelque part la femme comme un produit, la femme comme un objet, et qui finalement, on reste toujours dans de la prostitution, même si ça a l'air beaucoup plus joli.
Ah, mais moi, je n'ai jamais nié l'évidence. Hein. Prostitution, c'est un fait. Mais la différence entre être le fait d'être sur un coin de trottoir avec son bonhomme qui est garé dans une voiture glauque un peu plus loin et qui compte les sous que vous faites et qui vous avoine quand vous rentrez chez vous parce qu'il manque 10 euros ou un truc comme ça, C'est le jour et la nuit, c'est les antipodes. Claude, effectivement, c'était un réseau. De toute façon, elle était obligée d'avoir un petit peu de tenue pour maintenir en état son cheptel, ne serait-ce que dans l'organisation de ses rendez-vous et tout ça. 500 filles, c'est une pure légende. On était à peu près 20-25 quand il y avait foule. Et on a en premier plan, et puis il y avait l'arrière-garde qui était encore d'une quinzaine ou d'une vingtaine de filles. Donc vous voyez qu'on est loin de la réalité dans les légendes qui se propagent. Voilà, et bon, c'était effectivement de la prostitution, mais on rencontrait les grands de ce monde, on était payé de façon royale, on voyageait en jet privé souvent, on venait nous chercher pour dîner avec le chauffeur en bas dans la belle voiture. C'est difficile à se représenter aujourd'hui dans le monde de maintenant. Mais à l'époque, c'était faisable, ça a été fait d'ailleurs, et c'était tellement fabuleux que le côté sexuel de la chose, il faut pas voir ça comme un... Les filles, il y avait des prétendantes pour rentrer chez Claude, c'était pas elle qui chassait partout avec un fouet à la main. Alors venez les coques, elle obligeait personne. Et les filles venaient, allaient, la quittaient quand elles voulaient. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait.
Oui, il n'y avait aucune violence, aucune contrainte.
Aucune contrainte, jamais. Tout ça. Jamais, jamais. C'est de la fiction, ça.
Alors,
Patricia, dans toute sa carrière qui a suivi après, n'a jamais eu de Mac homme. Jamais. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un. Ça m'a
plu
chez elle. extrêmement indépendante, totalement indépendante. Et elle refuse ce vocabulaire de maquerelle à propos de Claude. Elle estime que c'était une relation commerciale. Mais après, dans la suite de sa carrière, sans Madame Claude, quand Madame Claude va tomber, elle n'aura jamais de mac. Elle va toujours faire sans les hommes. Donc c'est aussi... Voilà, c'est pas forcément ce qu'on imagine et ce qu'on croit.
Plus de commission, c'est ça.
Bah, plus de commission, mais enfin, vous savez que si toute seule vous gagnez 2000 euros ou 3000 euros, peu importe le chiffre, et que grâce à elle vous en gagnez 10 000, qu'est-ce que ça vous fait de lui enfiler 3000? Sincèrement.
Oui, après, c'est pas un commerce.
Non, mais
anodin,
ça reste
du commerce. Moi, je voulais finir sur la nourriture, parce qu'on parle de sexe. Alors, ça, c'est vrai que pour des gens, enfin, des mecs qui veulent avoir une belle femme, qui n'ont pas les moyens, peut-être qui ont les moyens financiers, mais pas forcément. Il fallait avoir les moyens financiers.
Et puis Madame Claude triait les clients, attendez.
Ah, en plus, elle triait les clients. C'était
celle-là. Attention. Elle était aussi exigeante pour ses clients que pour les filles.
Philippe Bidger, juste un dernier mot. C'est souvent le débat. Malheureusement, on n'a plus trop le temps, mais juste une dernière petite question. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Philippe Bidger, le débat revient souvent sur il faut rétablir les maisons closes. J'aimerais bien savoir, et pour finir sur cette note, ce que vous en pensez, Patricia, aujourd'hui.
Bah écoutez, moi, je ne suis pas contre l'idée, mais sous condition, avec un règlement, entre guillemets, préétabli, on va dire, et puis essayer d'aller un peu vers l'excellence plutôt que d'aller toujours... dans le misérabilisme et dans la victimisation.
Ouais, ouais. Voilà. Allez, une dernière question, Philippe Bidger ou Stella Kamga.
Savoir, est-ce que vous avez finalement fait le choix d'être une maman ou une femme au foyer
Je l'ai été, ça ne m'a pas emballée, femme au foyer. Je n'ai pas eu d'enfant parce que les choses se sont faites comme ça. Quoi, voilà.
Très bien, Philippe Bidger.
Non, moi, je connais moins, évidemment, cet univers que Frédéric Ploquin et bien sûr Patricia. Moi, je ne suis pas hostile à tout ce qui pourra libérer la relation du caractère honteux de la prostitution ordinaire. Voilà.
Merci.
Allez,
moi j'ai fini sur la bouffe. Eh ben oui, parce que Madame Claude, mine de rien, elle parlait. Moi j'aime bien la bouffe et j'aime bien le sexe.
Parce que
de toute manière, dans le sexe, tu suces pareil que dans la bouffe. Ouais. Tu lèches pareil. Enfin, tu vois, il y a toutes sortes de choses comme ça. T'enfournes, etc. Enfin bref, du coup, tout d'un coup, il y a un côté comme ça. C'est de la sensualité. Alors j'ai pas dit qu'il y avait toujours de la sensualité.
C'est une forme de jouissance, la bouffe.
Mais c'est une forme de. Oui, voilà. Donc voilà. Donc sexe et bouffe.
Sexe et bouffe. Moi, ma grand-mère disait, pour bien s'occuper d'un homme, il faut s'occuper de son ventre et de son bas-ventre. Voilà, c'est ce que disait ma grand-mère.
Sage-femme.
Merci à vous.
Les féministes vont vous tomber dessus.
Merci à vous, Patricia Herfmann et Frédéric Ploquin, voilà, pour le livre Call Girl du Tout Paris, Confession d'une fille, Madame Claude, aux éditions Nouveau Monde. Voilà, allez vous le procurer, hein, ce livre qui marche très bien. Voilà, les vacances approchent, donc c'est l'occasion d'acheter un livre et de lire pour cet été. Dans
Sur
un
ma
instant,
plage, ça doit être très agréable.
Voilà, dans un instant, c'est le grand débat des vraies voix. Restez avec nous, le conflit entre Israël et le Hamas ce week-end, de nombreuses manifestations qui auront lieu en soutien aux Palestiniens. Alors certaines manifestations vont peut-être être interdites si une demande du ministre de l'Intérieur. Faut-il craindre une importation du conflit dans notre pays? 0826 300 300, vous votez sur les réseaux sociaux, on revient dans quelques minutes, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. L'escalade et peut-être une guerre totale entre Israël et le Hamas. Des manifestations en soutien à Gaza ont eu lieu déjà dans plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Allemagne par exemple. Avec certains débordements, deux drapeaux israéliens ont été brûlés devant des synagogues en Allemagne. Des manifestations sont prévues également un petit peu partout en France. Alors demain, samedi et dimanche, manifestations en soutien aux Palestiniens. Gérald Darmanin qui cet après-midi a demandé au préfet d'interdire en tout cas le rassemblement prévu à Paris. Beaucoup craignent des tensions, des appels à la violence contre la communauté juive ont été relayés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Faut-il craindre une importation du conflit en France? Twitter, YouTube pour voter, vous dites oui à 82%. Et le 0826 300 300 pour venir en débattre avec nous. On va vous écouter dans quelques instants. Voici le grand débat des vraies voix.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Et le débat est ouvert, le grand débat avec Philippe Bilger, Stella Kamga, Xavier de Namur et notre invité François Pupponi, député Modem du Val-d'Oise, ancien maire de Sarcelles. Bonsoir monsieur Pupponi.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir monsieur bonsoir. Le député. Je vous présente Philippe Bilger que vous connaissez évidemment, Xavier de Namur, Stella Kamga. Alors évidemment vous étiez maire, je crois, hein, oui, maire de Sarcelles en 2014, voilà, au moment de la guerre de Gaza, c'était à l'été 2014 et vous avez été témoin de violence à Sarcelles. Racontez-nous ce que vous avez vu à l'époque, il y a 7 ans, François Pupponi.
C'était à peu près les mêmes circonstances, il y avait des événements graves à Gaza et donc il y a eu des manifestations à Barbès, interdit, qui avait dégénéré, et quelques jours après, des Sarcellois, des gens que nous connaissons parfaitement, ont proposé une manifestation à Sarcelles qui passait comme par hasard devant la synagogue de la ville, ou en tout cas à proximité. Et le préfet a pris un arrêté d'interdiction, mais très tardif, le vendredi pour le dimanche, et il a quand même autorisé l'organisateur à se rendre à la gare, là où il y avait le rendez-vous pour la manifestation, pour qu'il dise aux manifestants de rentrer chez eux. Et en fait, les manifestants n'ont bien entendu pas obtempéré et ils se sont dirigés comme une horde sauvage sur la synagogue. Alors les CRS qui avaient été mis en place ont protégé la synagogue, mais on a entendu des cris de mort aux Juifs, on va vous brûler, mort à Israël. Et quand ils n'ont pas pu attaquer la synagogue, ils ont saccagé la ville et attaqué tous les commerces tenus par des membres de la communauté juive dans un centre commercial à proximité de la synagogue. C'était donc en juillet 2014.
Ouais. Alors, avant le conflit en 2014, ça se passait plutôt bien entre la communauté juive de Sarcelles, alors qu'évidemment, il y a beaucoup moins de juifs à Sarcelles, et la communauté musulmane.
Oui, ça continue à bien se passer, ouais. Ça se passait bien avant, ça continue. Là, c'était vraiment les réseaux pro-palestiniens avec un certain nombre de délinquants qui ont décidé d'attaquer. Mmh. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les communautés entre elles se respectent complètement. Le problème, c'est quand il y a des réseaux liés soit à l'islam radical, soit aux pro-palestiniens qui sont là pour en découdre et qui sont là pour attaquer. Et ce n'est pas la communauté musulmane qui est attaquée. Ce sont des réseaux qui sont complètement structurés. Ils l'étaient déjà en 2014. Et alors, je ne vous dis pas aujourd'hui, en 2021, ils sont non seulement très structurés, mais très influents. Mmh.
Pour finir, avant de donner la parole aux vraies voix, est-ce que vous craignez alors qu'il se passe la même chose aujourd'hui, François Pupponi ?
La crainte, elle est réelle. Mmh. Vous savez, la tension, elle est palpable. La crainte, elle est réelle. On voit sur les réseaux sociaux, il y a d'ailleurs quelqu'un qui a lancé un tweet il y a deux jours en disant « Allez dans le quartier juif à Sarcelles ». Donc on a porté plainte contre l'individu, mais bien entendu que la crainte, elle est réelle. Ce que l'on sait, mais quasiment d'une manière certaine, c'est qu'il y aura au mieux des cris de mort aux Juifs et mort à Israël, et au pire des dégradations et des attaques. Mmh. Mais on sait que lorsqu'il y a une manifestation comme celle-là, c'est toujours un déversoir de haine vis-à-vis de la communauté juive et d'Israël, et je pense que le ministre de l'Intérieur a eu entièrement raison de prendre un arrêté d'interdiction puisqu'il y a un risque certain de troubles à l'ordre public.
Ouais, alors rassemblement, manifestation à Paris, mais il y en a d'autres, hein, samedi et dimanche, dans plusieurs villes de France. Philippe Bilger.
Monsieur le député, comme vous connaissez très bien cette terrible problématique, à votre avis, pourra-t-on un jour apaiser l'incidence de ce qui se passe là-bas et qui est terrible en ce moment sur la vie française? Comment faire pour que il y ait une forme d'apaisement qui puisse se créer alors qu'on a l'impression d'une sorte de fatalité qui transporte forcément le conflit israélo-palestinien sur notre sol et dans l'affrontement de, non pas des communautés, comme vous venez de le dire, mais d'individus qui cherchent à en découdre en prenant cela pour prétexte.
Ben, c'est bien le problème, vous avez raison. Aujourd'hui, si nous étions capables en France, qui a un rôle particulier vis-à-vis de ce conflit, compte tenu de la proximité de notre pays, à la fois avec Israël, mais avec les Palestiniens également. Si nous étions capables d'aborder le problème sans l'importer sur le territoire national, bien sûr que l'on pourrait même œuvrer pour la paix. Mais comme vous le dites, une grande partie des membres de la communauté juive de France ont des parents, des enfants, des proches qui vivent en Israël. Moi, j'ai appelé tous mes amis qui sont là-bas, donc ils vivent sous les bombes. Et après, les réseaux proches de la Palestine ou de l'islam radical essayent d'importer le conflit dans notre pays pour dire, vous voyez, de toute façon, tout ça, c'est contre les musulmans, la France accepte, la France coopère avec Israël, et donc on est là pour tuer des musulmans. Voilà, donc tant que des réseaux importeront le conflit, nous ne pourrons pas sereinement essayer d'œuvrer pour la paix, parce que tout devient une récupération nationale, qui bien entendu n'est pas prompte à faire en sorte que les choses se passent avec apaisement.
Xavier de Namur.
Oui, alors moi j'entends, ça fait des décennies qu'il y a un conflit en Israël avec les Palestiniens et que ici en France les gens prennent parti. Alors s'ils sont musulmans, effectivement ils pensent qu'ils sont quasiment palestiniens, et s'ils sont juifs, des fois certains pensent qu'ils sont carrément israéliens. Je rappelle qu'on est juif en France, on n'est pas israélien, et on est musulman en France, on n'est pas palestinien. Et que il est clair que débattre dans une démocratie comme la France laïque, c'est de permettre de débattre. On peut débattre du conflit en Israël. En Israël, il y a un problème. Il y a vraiment un problème de deux communautés, de l'État d'Israël pour permettre de cohabitation réelle. Ça a failli se passer, mais ça s'est pas passé. Et donc, nous, ce qu'on doit veiller dans ce pays, c'est qu'on puisse en débattre. En débattre, ça veut dire ne pas se battre entre nous. C'est-à-dire de vivre en bonne intelligence, en communauté, musulmans, juifs, etc., laïcs, etc., et ça permet à ce moment-là d'éviter des débordements. Oui. Moi, tu vois, j'ai ramené deux choses pour montrer. C'est un livre qui s'appelle Jérusalem. C'est un livre de Otto Linghi, qui est un Israélien, et de Sami Tamimi, qui est un musulman, qui est libanais. Ils ont écrit un truc, je reviens à la bouffe, ils ont fait un truc sur la nourriture ensemble, parce que ce qui nous lie, il y a plus de choses qui lient les Palestiniens et les Israéliens, ou les musulmans, ou les Arabes, parce que c'est les musulmans et les Arabes, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et je dis encore, il y a un autre livre, tu vois, c'est la quatrième couve de mon livre. C'est la scène avec des musulmans, des juifs, etc. On est tous ensemble, on travaille ensemble. Ce pays, la France, c'est cette possibilité de vivre ensemble, donc d'importer ce prétexte, parce que c'est des minorités qui importent, qui en parlent, c'est des minorités de gens qui tout d'un coup ils se sentent presque palestiniens, mais ils ont rien à voir, ils connaissent même pas souvent l'origine du conflit, et effectivement il y a un vrai problème, et moi je ne défends pas ni beaucoup peut-être plus les Palestiniens que le gouvernement israélien, et je pense qu'en Israël énormément d'Israéliens sont contre la politique menée actuellement face à l'État palestinien.
Stella, on vous a pas entendu, Stella Kamga. Et je vous donne la parole à François Pupponi juste après.
Quand je confirme ce que vous venez de dire par rapport aux minorités et les groupes radicaux, enfin les groupes qui sont liés à l'islam radical qui instrumentalisent ce conflit. Je ne sais pas si vous, après ça c'est plus ma génération, si vous avez TikTok, depuis 48 heures il y a des vidéos mais de haine, je n'avais jamais vu ça de ma vie, de jeunes garçons, de jeunes de façon générale, garçons et filles, qui appellent à la haine, qui appellent au meurtre, qui appellent au choix de mettre Israël à feu et à sang. Mais quand vous voyez la tranche d'âge, mais c'est ça qui est surprenant, c'est que ça va maximum, on va dire quoi, de 14 à mon âge. Quoi. C'est quand même énorme que des jeunes réussissent à faire des vidéos comme ça et à écrire dans leurs vidéos « je préfère Israël » ou « je préfère la Palestine » à mort Israël. Et j'étais choquée en tout cas de voir les messages ensuite. C'était, je ne sais pas si vous le connaissez, Julien Balloun, qui a fait des tweets et qui expliquait
que lui aussi, il est menacé. Que
alors lui c'est un famille, journaliste de la chaîne I24 qui se trouve en Israël.
Qui voilà, est arrivé Julien à Paris, Badoul, justement.
Voilà. Qui est un Français, franco-israélien.
Il a dû arriver à Paris aujourd'hui avec ses filles. Normalement, son voyage était prévu pour lui seul, mais depuis les récents événements, sa vie est en danger, la vie de sa famille est en danger. Donc, ils ont dû voyager. C'est pour vous dire à quel point... moi, j'étais vraiment choquée par tant de haine. Mmh. Et après, il y a une association chrétienne d'Orient qui a publié un tweet en disant que les bombes envoyées par Israël sont arrivées dans une église et a créé des morts. Donc, des deux côtés, si vous voulez, il y a des victimes. Et il y a un adage chez nous qui dit que quand les éléphants se battent, généralement, c'est les ailes qui en souffrent. Ouais. Je ne sais pas d'où provient ce conflit, mais une chose est sûre, c'est que dans les deux camps, on déplore des victimes. Et je ne sais pas comment on va réussir à résoudre ça. Mais c'est vraiment dommage.
Alors François Pupponi, j'aimerais avoir l'avis aussi sur ça de Philippe Bidjar. François Pupponi, Xavier Dunamur nous parlait à l'instant des médias. Est-ce que les médias aussi n'ont pas une part de responsabilité dans l'information qu'ils donnent, les images qu'ils donnent, et certains aussi responsables politiques comme la France Insoumise par exemple, je pense à David Guiraud par exemple, qui a eu des mots très durs et qui peut parfois mettre de l'huile sur le feu. François Pupponi,
c'est évident, nous avons en France un certain nombre de jeunes, et ça vient d'être dit, de très jeunes, qui n'ont pas forcément le recul ni la capacité d'analyser la situation réelle en Israël, et tant qu'on criera, moi je considère qu'on peut critiquer le gouvernement Netanyahou, c'est pas un problème, n'importe quelle démocratie peut être critiquée. Dire on veut la mort d'Israël, c'est pas pareil. Quand on dit on veut la mort d'Israël, ça veut dire on veut la mort de l'État du peuple juif, et accessoirement, la nouvelle définition de l'antisémitisme, c'est la mort des Juifs. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Et tant qu'il y aura des responsables politiques, des médias qui véhiculeront la haine d'Israël, bien entendu que des cerveaux un peu maniables peuvent un jour passer à l'acte. Et bien entendu que quand ils font la Juif-Israël, c'est la même chose, les Juifs tuent nos frères palestiniens et donc on va les tuer, mais on l'entend tous les jours. Donc bien entendu que les médias, les responsables politiques doivent comprendre que l'on peut critiquer le gouvernement israélien, mais défendre le droit d'Israël de vivre, de l'État d'Israël. Et tant qu'on met en cause l'existence du droit d'Israël, eh bien on aura des actes d'antisémitisme en France, parce que, je répète, des jeunes qui sont très malléables et qui n'ont pas forcément la capacité d'appréhension et qui basculent très très vite dans la haine, font très vite le rapprochement entre Juifs Israël. C'est pareil, et on attaque des Juifs.
Oui, Philippe Bidjar.
Je voudrais, monsieur le député, à nouveau, parce que certes, je m'intéresse à la réalité israélo-palestinienne, mais comme un citoyen qui n'est pas forcément toujours passionné par ça, quelle est votre opinion sur la raison de ces affrontements terrifiants de ces derniers jours? Est-ce qu'on peut dire qu'une responsabilité existe plutôt ici que là? Et d'autre part, est-ce que j'ai cru comprendre que, d'une certaine manière, les Israël tentaient de créer moins de victimes civiles que de l'autre côté? Est-ce que on peut avoir un parti pris là-dessus?
Non, mais c'est évident. La situation, elle est malheureusement relativement simple. Israël, qui est une démocratie, est en élection depuis quasiment 3-4 ans. Il n'arrive pas à déterminer une majorité, et donc il y a une instabilité politique, ce qui entraîne le gouvernement de Netanyahou parfois à être plutôt dans la défense de l'État d'Israël et n'est pas en capacité forcément de rentrer dans une négociation de paix avec les institutions palestiniennes. Et de l'autre côté, il y a le Hamas, dont dans sa charte, il est dit « je veux la destruction d'Israël ». Ça, c'est au sud, et au nord, vous avez le Hezbollah. Voilà. Donc Israël est pris entre tenailles, entre des organisations terroristes qui veulent sa mort. Bon. Donc, discuter avec quelqu'un qui veut votre mort et essayer de trouver un accord de paix, c'est compliqué. Donc, tant qu'il n'y aura pas du côté palestinien des gens, comme il y a eu au moment Yasser Arafat, capables de pouvoir discuter pour la création de deux États. Moi, je vais souvent en Israël, tous les responsables israéliens que je connais me disent « il faut deux États, c'est obligatoire, on finira comme cela, il faudra deux États, un État israélien, un État palestinien, mais il faut qu'on puisse négocier avec des gens qui acceptent de nous reconnaître ». Bon, et alors après, par rapport aux morts des uns et des autres, oui, ce que fait l'État d'Israël actuellement, ce que fait Tsahal, l'armée israélienne, c'est d'aller chercher les responsables du Hamas pour les tuer. Voilà, ils attaquent ceux qui attaquent. Et ils essayent, dans la mesure du possible, de ne toucher que des cibles militaires. Malheureusement, il y a bien entendu des victimes collatérales. Bien ce sûr. Que fait le Hamas, c'est d'envoyer des bombes et des roquettes sans chercher à comprendre sur tout l'État d'Israël. Alors, le fameux dôme qu'ils ont mis de fer empêche toutes les roquettes d'arriver, heureusement, mais certaines arrivent et tuent. Le Hamas n'attaque pas des cibles militaires, il attaque l'État d'Israël. Et donc,
oui, il est lancé à l'aéroport.
Ouais. Et... Alors, Luc est avec nous, Luc du Val-de-Marne au 0826-300-300. Bonsoir Luc.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir à vous, mon cher Luc.
Bonsoir à votre noble cénacle. Une première chose qui part un peu avant, quand j'entends M. de Namur, et j'étais dans ma voiture, je pense que j'ai bien écouté, dire qu'il faut expliquer aux jeunes que caillasser les pompiers, c'est pas bien parce que peut-être qu'ils viennent secourir leur mère, je rêve tout debout. Voilà.
Alors, quel rapport avec notre sujet
Non, rien, c'était tout. D'accord. Par contre, je voulais dire, monsieur Pupponi...
Il n'a pas dit ça.
Non, non, il a juste dit que ceux qui appelaient à caillasser les pompiers, ce serait bien qu'on leur dise que ces pompiers, ce sont eux qui parfois sauvent leur mère quand elles font des malaises. Oui, voilà, c'est ce qu'il a dit.
On ferait mieux de les foutre en taule, puis c'est tout.
Oui, alors ça c'est autre chose.
C'est pas incompatible.
C'est pas incompatible, effectivement. Allez-y, Luc.
C'est pour prévenir, c'est de la prévention.
Voilà, c'est de la prévention. Allez-y.
On n'arrête pas de prévenir. Moi, je veux parler à M. Pupponi. M. Pupponi, nous sommes totalement à l'opposé l'un de l'autre politiquement pareil. Par contre, j'ai un grand respect pour vous. Vraiment.
Je ne sais pas où vous êtes politiquement, donc je ne sais pas si on est totalement...
Je suis plutôt à droite, mais bien.
Hein. À droite.
J'ai manifesté pour la dissolution de Génération Identitaire, donc ça peut vous donner une idée.
Je comprends, d'accord.
Voilà. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je suis meurtri que vous ayez parlé avant moi, parce que ce que vous avez dit, je l'aurais dit. Voilà. Vous avez été témoin de guérilla urbaine en 2014, à l'époque de cette intifada et autres. Et moi, là où je vous rejoins, c'est que personne ne comprend ce débat. Personne ne le comprend. Allez demander aujourd'hui à quelqu'un quelles sont les raisons du conflit israélo-palestinien. Personne ne le sait. Plus personne ne le sait. Et quand vous allez dans les banlieues, et que vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart des gamins qui vont manifester, ils savent même pas où est la Palestine, ils savent même pas où est Israël. C'est le no man's land complet. Et moi, je vais vous dire une chose, parce que je suis un garçon pervers, j'ai mauvais fond. Je pense, si vous voulez, que la France devient un terrain vague. La France devient un terrain vague où toutes les rébellions, tout un tas de choses vient s'affronter parce que nous ne faisons rien pour garder notre...
Manque d'autorité, d'autorité, c'est ce que vous dites. Alors, il nous reste peu de temps, Luc, on va juste laisser réagir quand même François Pupponi sur tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai, François Pupponi, que malheureusement, ceux qui manifestent, une grande majorité, ne connaissent rien à l'histoire d'Israël et de la Palestine, en tout cas des 50 dernières années. C'est vrai, hein, François Pupponi.
La grande majorité des manifestants, je vous confirme.
Et oui.
Voilà. Et, par contre, ceux qui donnent les mots d'ordre, qui organisent, eux, ils savent exactement ce qu'ils font. Et sincèrement, pour un peu les connaître, ils ne le font pas pour protéger les Palestiniens. Ça, c'est une excuse qui se donne. Ils le font pour, dans notre pays, récupérer un certain nombre de jeunes à leur profit, avec une vision politique qui est double, qui est à la fois d'exister politiquement dans notre pays, mais également de mettre la pression sur le gouvernement français pour qu'il arrête d'être, parce qu'on est quand même là aussi pour aider Israël, d'arrêter les Israéliens. Donc il y a une volonté de géostratégie et de géopolitique, et puis il y a une volonté politique nationale s'imposer auprès des élus, et on voit, moi je le constate, je suis élu depuis maintenant plus de 25 ans, comment politiquement les partis les uns et les autres, en particulier à gauche, pas seulement la France Insoumise, mais maintenant par exemple le Parti Socialiste, il y a 20 ans le Parti Socialiste était plutôt un parti, moi je l'ai quitté un peu pour ça, était un parti qui défendait l'État d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun responsable politique socialiste qui a pris une position pour défendre l'État d'Israël. Donc petit à petit, la pression électoraliste monte et les partis de gauche, dans leur globalité, sont en train de rejoindre ce camp. Ouais. C'est ce qu'on appelle globalement l'islamo-gauchisme. Et donc tout ça est mêlé. Donc à la fois, il y a une volonté d'influer sur la politique internationale de la France, mais également sur la politique nationale. Et on voit bien, moi je le vois à l'Assemblée nationale, comment...
les camps ont basculé d'un côté et de l'autre.
Voilà. Et donc des manifestations, je le rappelle, qui sont prévues ce week-end dans toute la France. Alors, sauf à Paris, où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de l'interdire. Merci à vous, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, député MoDem du Val d'Oise. Oui.
Une précision, en 2014, la manifestation de Barbès et celle de Sarcelles étaient interdites, elles ont eu lieu.
Oui, c'est vrai. On verra ce week-end. Vous avez raison. Voilà. Effectivement, le grand débat des Brévois à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio, à regarder en vidéo sur notre chaîne YouTube dans quelques minutes. C'est le clin d'œil des Brévois avec Jean-Marie Bordry. À tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les Vraies Voix, c'est avec Xavier Denamur, Philippe Bilger, Stella Kamga, Jean-Marie Bordry pour le clin d'œil des Vraies Voix, qui prépare lui aussi, avec modération évidemment, la réouverture des terrasses et le retour de l'été. Direction Clermont-Ferrand ce soir, où se prépare une vente aux enchères d'objets de collection,
Jean-Marie. Oui, une véritable caverne d'Ali Baba, anisée pour le coup, évidemment, on l'a dit, hein, avec modération. Eh oui. À utiliser tranquillement dans votre jardin ou avec vos amis, ou pour décorer votre maison, plus de 1000 objets anciens de collection à l'effigie des différentes et célèbres marques françaises d'apéritifs anisés, du Ricard, du Pernod, des objets 51, des objets Berger, des pastis Berger de l'époque, des mignonnettes, des bacs à glaçons, des briquets, un calot, un parasol, j'en passe. Bonsoir à vous, Pierre-Gabriel Gonzalez.
Bonsoir.
Vous êtes le coordinateur de cette vente aux enchères sur les apéritifs anisés. Ce sont que des objets de collection en fait.
Absolument, oui, c'est un collectionneur qui se sépare de sa collection et qui met donc en vente 1000 objets que nous avons repris en 122 lots. Donc la vente se fera lundi 17 mai à 17h. Il faut préciser qu'elle se fera uniquement sur Internet pour des raisons de sécurité sanitaire.
Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'être clermontois pour y participer.
Absolument, c'est ouvert à tout le monde.
À quel type de public ça s'adresse effectivement? Là, on parle de collectionneur, un couple qui avait 1000 objets à l'effigie de toutes les marques possibles. C'est une sacrée collection, il faut quand même le reconnaître.
Oui, 20 ans de Chine sur les brocantes et les vigneronniers. Ouais. Qui s'adresse un peu à tout le monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nos contemporains qui ont des petits bars dans leur maison, dans leur villa, dans leur appartement. Et bon, un bar, ça se décore, comme l'étaient autrefois les bars, puisqu'aujourd'hui, la publicité est interdite pour les boissons. Elle est interdite dans les bars. Par contre, il reste des dizaines de milliers d'objets. Et donc, nous allons proposer quelques-uns à tout un chacun, je dirais. Puis bon, il y a aussi un petit clin d'œil, une forme de solidarité vis-à-vis de nos amis qui étaient fermés jusqu'à présent, les bars et les cafés.
Vous êtes en direct d'ailleurs avec l'un d'eux qui s'appelle Xavier Denamur.
Voilà, et qui piaffe d'impatience comme nous, parce qu'on a envie de retrouver nos amis à la terrasse des bars.
Et entre amis, justement. Tout à fait. Donnez-moi quelques exemples d'objets de collection.
Oh ben écoutez, beaucoup de choses. D'abord, le premier lot, c'est le pastis premier qui a disparu. Alors, c'est amusant. Le lot 18, circuit Paul Ricard, un petit clin d'œil à ce circuit mythique, avec quatre verres Pernod, dont un est consacré au champion Estrosi, donc l'actuel maire de...
Le célébrissime maire de Nice, effectivement.
Christian Estrosi, qui était champion de France moto. Sur motovécane en 250. Voilà, ça.
Donc vous avez des verres à l'effigie de Christian Estrosi.
Oui, tout à fait. Et puis un petit lot Casanis pour faire un clin d'œil à nos amis corses, un autre sur les anisettes des pieds noirs, les gras, le cristal, une pendulette rugby à pastis 51. Et puis alors un peu le clou pour moi, le clou de la vente, c'est un tapis de jeu Pernofis des années 30.
Ah oui.
Et ce tapis de jeu, on le retrouve dans Pagnol, c'est-à-dire qu'on le voit très bien à un moment dans une scène du fameux César, la partie de cartes.
Tu me fends le cœur.
Voilà, tout à fait. Et toi, il te fend rien. Voilà, donc c'est vraiment historique. Là, on a un lot autour de ce monument de l'histoire du cinéma, c'est le lot 73. Voilà.
Écoutez,
et puis dernier
bon,
lot, c'est un petit panneau de ventouse qui dit fermé ouvert et je l'ai laissé sur ouvert.
Il est temps que ça rouvre, justement.
Ce sera dans deux jours, là, à partir de lundi.
Ouais.
Xavier de Namur, en un mot, vous décorez votre bar chez vous, vu qu'effectivement vous ne faites pas de pub, c'est normal, dans votre propre brasserie.
Alors, j'ai 5 bars, enfin j'ai 3 bars vraiment purs, donc j'en ai pas chez moi, j'ai pas mis de bar chez moi.
C'est vrai, la maison elle travaille.
Et des carafes pastis et tout, depuis 45 ans que je travaille dans le, dans le métier, j'ai vu des carafes pastis, on a donné beaucoup aux clients. C'est vrai qu'avant on avait beaucoup de ce qu'on appelle du matériel de vente comme ça, les verres pastis, les carafes pastis, les présentoirs. Et donc les gens les prenaient.
C'est-à-dire, souvenir.
Et donc moi j'en ai plus.
Petite Madeleine de Proust, allez, dernière question pour vous, évidemment, Pierre-Gabriel González. Pour ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, partout en France, je le rappelle, puisque c'est sur Internet, quelles sont leurs formalités? Où est-ce qu'ils peuvent se connecter?
Alors, donc, c'est l'étude Vassy-Jalinck à Clermont-Ferrand, et il faut qu'ils aillent sur le site interenchères au pluriel.com, www.interenchères.com.
Voilà. Et ça aura lieu le 17,
à 19h, c'est l'heure du berger.
C'est ça.
Avec modération.
Et combien vaut une carafe d'eau berger maintenant?
Question.
Ça dépend des modèles, mais c'est des petits prix. Hein. Moi, on n'a pas dans les 120 de l'eau, on a pratiquement les trois quarts qui sont entre 30 et 50 euros. Mais c'est une vente, c'est une vente d'amitié plus qu'autre chose. Mais évidemment, je trouve que c'est le moment ou jamais.
C'est le moment ou jamais. Fêter le retour de l'été, la réouverture des bars. Je le répète, bien sûr, avec modération, c'est toujours plus agréable entre amis,
et
tranquillement.
Oui, évidemment.
Merci à vous, Pierre Gabriel González, coordinateur
bonne soirée,
de cette vente.
Et à lundi, j'espère.
Ben, lundi peut-être, coordinateur de cette vente aux enchères du côté de Clermont-Ferrand.
Merci à vous, dans un instant, restez là, les voix de l'environnement. Jean-Marie, en quelques mots pour la suite.
En quelques mots, on va revenir une dernière fois sur les seins de glace. Hein. Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gelée. C'est aujourd'hui la Saint-Servais. Est-ce que les vergers et les vignerons, justement, vont devoir s'habituer à vivre avec des épisodes dramatiques de gel comme ce qu'on a vécu il y a plusieurs semaines,
hein. Et voilà, dans un instant, les voix de l'environnement, restez avec nous, à tout de suite.